Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch, assisté de Victoria. Émission du 6 février 1991, rediffusée dimanche 6 septembre 2015 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
On ne s'en lasse pas. C'est vrai, non, des accents guerriers. En ce moment, ça fait plaisir. Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs. Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national.
Sur
95,6 MHz.
Je trouve que 0,6, c'est plus joli, hein, mais enfin.
Tu fais ce que tu veux et moi, je fais ce que je veux. Voilà. Chacun sa liberté. L'anarchie vaincra. Vous savez que l'anarchiste est celui qui a une si haute idée de l'ordre qu'il n'en supporte pas la caricature. Ils nous ont retiré Jox. C'est incroyable. On avait enfin un ministre avec lequel on pouvait se marrer. Ils l'ont retiré. Ils ont mis Marchand à la place.
Hein? Je dis se marrer.
Si, on riait bien avec Jox. Enfin, moi, en tout cas, qu'est-ce que je rigolais. Et tous les mois, pratiquement, j'étais devant la 17e. Monsieur de Beketch, vous avez dit que Jox était un va de la quoi? Non, j'ai jamais dit ça. Si, si, vous l'avez écrit. Bon, 6 mois de prison ferme. C'était très amusant. C'était... Non, 6 mois de prison ferme, j'exagère. Mais enfin, 5000 francs d'amende, 3000 francs d'amende. C'était... Ça tombait comme à Gravelotte, tandis que là, Marchand, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous l'avez vu, Marchand?
Marchand, ce sera 8 mois de prison ferme. Bon.
Alors, ce soir, programme. D'abord, quelques annonces. Ah, je voudrais dire une chose avant de dire les annonces. C'est pas la peine de m'envoyer des lettres anonymes. Ça sert absolument à rien. La première chose que je fais en ouvrant une enveloppe, je regarde si la lettre est signée. Si elle n'est pas signée, s'il n'y a pas de nom d'expéditeur, elle va directement au panier, elle n'est pas lue. Alors, ne perdez pas votre temps à rédiger des longues litanies d'injures. Si vous ne mettez pas votre nom, votre adresse, pour que je puisse y répondre. Et je vous enverrai pas le bêtard pour vous taper dessus, hein. D'abord, je n'ai pas de contact. Je vous dis, ne m'envoyez pas de lettres anonymes, c'est inutile, je ne les lis pas. Voilà, je voudrais vous donner 2 informations, quand même. On va certainement en reparler tout à l'heure. Le mensuel choc a été condamné à publier un communiqué de la LICRA, parce que le mensuel choc avait titré son dernier numéro...
Les juifs
ont-ils poussé à la guerre? Alors, je vous signale que c'est interdit. Madame Huguette, le foyer de Costil, premier vice-président du tribunal, a dit que même sous la forme interrogative, une telle allégation, exprimée par un titre voyant et accrocheur, parce qu'évidemment, si le titre n'avait pas été voyant et accrocheur, c'était moins embêtant. Mais avec un titre voyant et accrocheur, et quelles que soient les précisions et nuances apportées par les journalistes, crée pour la communauté juive un risque. Alors, quand vous dites, par exemple, quand les journaux de la communauté israélite, comme le journal dirigé par Monsieur Bloch, Jean-Pierre Pierre, il faut que j'arrête, Bloch, titre Le Pen est nazi, ça ne pose aucun problème. Pourquoi? Parce que ça n'est pas une question. Ce qui est dangereux, c'est la question. Pourquoi est-ce dangereux une question? Parce que ça pousse à...
Répondre.
Non, avant de répondre, on ré...
Fléchit.
On réfléchit, bravo Marc Dem. On réfléchit. Et des citoyens qui réfléchissent sont des citoyens dans...
Heureux.
Merci Michel Valadier. Vous voyez, c'est formidable.
Hein? Vous auriez fait un bon institut.
J'aurais fait un bon institut. Donc, ne posez pas de questions, puisque les questions conduisent à la réflexion à la méditation à la réponse à la certitude à la conviction à l'action, d'où danger, voyez-vous.
Et l'action à la 17e chambre.
Voilà. Alors donc, Choc a été condamné à publier un communiqué de la LICRA disant ça. Seulement, le résultat, c'est que, là, dans le numéro qui vient de sortir, il te pose la question. Les juifs ont-ils poussé à la guerre? Et puis, dans le numéro suivant, c'était fini, normalement, ils n'allaient pas y revenir, tandis que là, ils vont revenir, puisqu'ils vont être obligés de publier le communiqué de la LICRA. Vous voyez comme c'est bête de faire des procès aux journaux.
Mais le journal n'a pas été saisi.
Non,
le journal n'a pas été saisi. Il faut l'acheter rapidement. Parce que c'est un bon journal, d'abord. Et puis alors, mais à côté de ça, vous voyez, en revanche, il y a des gens qui ne sont pas du tout poursuivis devant la 17e. C'est les gens de la Fédération israélienne de tennis qui ne veulent pas jouer les matchs à la Coupe Davis, de la Coupe Davis à Marseille. Parce que, nous dit Le Monde, dans la même page, c'est M. David Arnick qui a dit comme ça que un changement de lieu de la rencontre pourrait faciliter le travail des forces de sécurité. Parce que nous estimons qu'en raison de la situation actuelle et du fait qu'il y a une vaste communauté musulmane à Marseille, il serait mieux et plus sûr que la compétition se déroule ailleurs en France. Si je comprends bien, quand Le Pen dit qu'il y a trop d'Arabes à Marseille, c'est un raciste. Quand c'est M. David Arnick qui est le patron de la Fédération israélienne de tennis, c'est plus du racisme. Pourquoi ? Je vous pose la question. Parce que M. David Arnick ne peut pas être raciste. Pourquoi ne peut-il pas être raciste ? Je vous interdis de répondre à cette question qui restera en suspens jusqu'au moment où elle nous tombera sur le coin de la figure.
Comme les bombes américaines.
Voilà, tout ça pour vous dire que finalement l'actualité est aussi sotte que d'habitude. Alors, si vous voulez vous changer les idées, vous irez le jeudi 14 février à 19h30 à l'amphithéâtre de la FACO, 115 rue Notre-Dame-des-Champs, Paris 6e.
Oui.
Mais il paraît que c'est 117 d'ailleurs. Puisque je suis allé donner une conférence la semaine dernière qui a été fort appréciée, je dois dire, par les 42 personnes qui ont assisté.
42.
Non, il y avait du monde, c'est vrai. Il y avait du monde. Et il me semble que c'est 117. Enfin, c'est rue Notre-Dame-des-Champs, au 115 ou au 117, qui sont des adresses voisines. Merci, messieurs, dames. Donc, jeudi 14 février, 19h30, amphithéâtre de la FACO, 115 rue Notre-Dame-des-Champs, Paris 6e, métro Port-Royal. Il y aura une conférence de maître Georges-Paul Wagner. Et alors, on ne sort pas du sujet, puisque le titre de cette conférence de maître Georges-Paul Wagner, spécialiste du droit de la presse, et particulièrement de la législation dite antiraciste, c'est le thème de cette conférence, c'est le prétendu antiracisme. Voilà. Le dimanche 10 février à 19h, M. Jean-Marie Le Pen sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach à l'émission Le Club de la Presse sur Europe 1. 10 février, 19h. C'est dimanche prochain. Donc pas question d'aller faire du ski, pas question de partir à la campagne, vous restez chez vous s'il vous plaît, on vérifiera. Parce que nous avons les moyens de vérifier.
À 19h, il n'y a plus beaucoup de stations ouvertes.
Hein, oui, mais on connaît les gens. À 19h. Maintenant, si vous avez été satisfait par les déclarations de Jean-Marie Le Pen à 19h le 10 février sur Europe 1, vous pourrez aller lui manifester votre approbation le 22 février à 20h30 à la Mutualité, en direct, en chair et en os. C'est un meeting organisé par le CNC, qui est le Cercle National des Combattants, dirigé par notre ami Roger Olindre, qui fait un meeting de soutien à l'armée.
À propos de Le Pen, beaucoup d'auditeurs demandent ce que veulent dire les mots arabes sur l'affiche nouvelle, sur son affiche nouvelle.
Vite.
Ça veut dire vite.
C'est ce qu'on m'a dit. Je ne connais pas l'arabe, donc je ne sais
pas. Moi non plus.
Mais on m'a dit, Philippe Varley, qui est un arabophone distingué et un hébraïsant du même métal, m'a dit, ça veut dire vite. Comment on dit vite en arabe ?
Fissa,
voilà, ça veut dire Fissa. Donc, Le Pen Fissa, je trouve ça très drôle comme idée. Tout le monde n'est pas du même avis.
Oui, mais ça peut vouloir dire Le Pen Fissa.
Bon. Non, il est vers le haut, il va vers le haut et vers la droite. Il monte, Le Pen Fissa. Voilà, je vous donne alors maintenant une information sérieuse. Le reste était aussi sérieux, mais ça c'est sérieux et important, ça fait appel à votre collaboration. Il y a un groupe de jeunes gens dynamiques et de nos amis qui se préparent à partir en Lituanie, à Vilnius, pour apporter un témoignage de soutien et un témoignage pratique de soutien aux courageux lituaniens qui sont quand même plus plaisants, il faut bien dire, que les Koweïtiens. Hein ? Je trouve que s'il fallait aller mourir pour défendre des gens, moi je serais plus volontiers parti pour casser la tête, enfin pour m'opposer à l'armée rouge et protéger la Lituanie que pour prendre des bombes irakiennes sur le coin de la tronche et m'opposer à Saddam Hussein. Parce que c'est moins loin, quoi, en fait.
C'est moins loin, et puis peut-être dans notre milieu, on est familier des causes difficiles.
Voilà. Alors donc, on ne vous demande pas d'aller offrir vos poitrines au bal de l'Armée Rouge, mais on vous demande, si vous voulez participer à l'effort qui va être fait par ces jeunes gens, de penser à leur apporter ou à leur faire parvenir, par le moyen qui vous plaira, des vitamines, du café, du chocolat et du savon, qui sont des produits que naturellement on ne trouve pas en Lituanie, puisque les Russes, ne pouvant plus les piquer en Pologne, les piquent en Lituanie. Et alors ça, c'est un appel que je lance comme ça dans l'éther, une photocopieuse. Parce que la résistance passe par le combat des idées, et le combat des idées par leur diffusion, et les résistants lituaniens ont besoin de photocopieuses. Et donc ces jeunes gens ont eu l'idée d'essayer de trouver une photocopieuse. Alors il y a deux solutions, ou vous avez une photocopieuse et que vous pouvez offrir et vous l'offrez, ou vous avez de l'argent, ou vous avez un moyen d'obtenir des prix, etc. De toute façon, je vous demande votre appui. Alors, le meilleur moyen de contacter ces jeunes gens, c'est de téléphoner à Virginie au 47 41 07 86. 47 41 07 86. Et puis vous dites ce que vous pouvez faire, si vous pouvez offrir du café, des vitamines, du savon, quoi encore, du chocolat, ou si vous pouvez participer d'une manière ou d'une autre à l'achat d'une photocopieuse. Je vous rappellerai cette demande. Grande réunion d'information le vendredi 8 février 91 à 20h30 au musée social 5 rue Lascaz, et non pas Lascazès, comme je disais quand j'étais petit, 75 007 Paris. Pierre Sergent, ancien député, membre du bureau politique du Front National, écrivain spécialiste des questions militaires, répondra à la question « Sera-t-il possible d'être français en l'an 2000 ?» 8 février 91 à 20h30. Monsieur Rea Avam Zevi fait savoir que les Arabes doivent quitter les territoires occupés, ce qui me paraît effectivement une très très bonne solution. Là-bas, chez eux, les territoires occupés par d'autres, les Arabes. Pas les territoires qu'ils occupent, eux, chez nous. Non, non. Ça, monsieur Revam Levy s'en fout totalement. Il veut que les Arabes partent de chez eux. Probablement, d'ailleurs, pour venir chez nous. Bernard Anthony donnera à l'IFN, mardi 12 février, sur le thème des lieux de mémoire, une conférence 8 rue d'Athènes, salle des agriculteurs. On passe notre temps à se cultiver. Je suis sûr qu'à gauche, ils n'ont pas autant de conférences. La cassette vidéo du discours de Jean-Marie Le Pen du 23 janvier 91 au Palais des Congrès est disponible au prix de 100 francs, plus 20 francs pour les frais de port. Il faut s'adresser à la SERP, 6 rue de Beaune.
Paris 7e.
La SERP, 6 rue de Beaune, Paris 7e, 120 francs, port compris, pour la cassette vidéo du discours de Le Pen au Palais des Congrès. Et je vous assure que ça vaut la peine, c'était un grand discours. Mais quand on dit ça, les gens ne croient pas, parce que c'est toujours un grand discours. Là, c'était un grand, grand discours. Et la cassette audio du même métal est disponible, ou du même discours, si vous préférez, est disponible auprès de la délégation générale du Front National, laquelle se trouve rue de l'amiral Clergerie.
Général.
Qu'est-ce qu'il est ?
C'est un général.
Général. Moi, je préfère les amiraux. C'est vrai, ils sont rigolos. Avec leurs bouées et leurs palmes, ils sont plus amusants que les généraux, qui n'ont que des étoiles. Les stéloferrères, on les appelle. C'est joli, non ?
C'est joli.
Voilà. Et alors, Bruno Maigret sera le vendredi 8 février 91 à Villeurbanne. Je vois pas en quoi ça nous concerne, mais enfin, je vous l'annonce quand même. Si nos nombreux auditeurs de Villeurbanne veulent se rendre à la salle Jean-Pierre Stirbou à 51 rue de la République, 69 100 Villeurbanne, ils y sont invités. Oui, il y a une salle Jean-Pierre Stirbou. C'est bien, je crois. Enfin, Jean Faure, l'admirable prophète du cycle adamique, donnera une conférence le samedi 9 février à 15h, 2 rue Elzévir, à l'angle de la rue des Francs-Bourgeois, Saint-Paul-le-Marais, pour le métro, les deux drames du temple, 1312-1792. Jean Faure, conférence. C'est intéressant, les conférences de Jean Faure. Moi, Jean Faure, j'aime beaucoup. Lui, même moins, parce qu'il trouve que Minute est trop nationaliste. Qui m'a dit comme ça. suis désolé, c'est pas de ma faute. Et ben voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Alors maintenant, de quoi allons-nous parler ? Toutes ces annonces étant faites, nous allons parler avec Marc Demme dans un premier temps, et puis peut-être Michel Valadier s'il veut joindre à notre conversation, de l'Église face à la guerre. Ensuite, nous parlerons avec Michel Valadier et Marc Demme s'il veut joindre à notre conversation, de l'état actuel de la situation de Renaissance catholique et ses projets. J'allais dire ses projets d'avenir, mais il paraît que c'est un pléonasme redondant. Et puis, ensuite, nous parlerons avec monsieur le commissaire Le Taillantaire, que je salue, parce que je suis honoré de sa visite. C'est un personnage considérable dans l'histoire récente de la police française. Nous parlerons de l'affaire Jobbik, qui est le titre, je crois, d'un livre que vous venez de publier. Alors, on va dire tout de suite chez quel éditeur.
Édition de Fallois.
Aux éditions Bernard de Fallois.
C'est commissaire Jobbik.
Commissaire Jobbik. Alors, c'est la... Oui, il faudrait vous rapprocher du micro, me signale notre technicien bien-aimé. Donc, le commissaire Jobbik, c'est un livre qui raconte la véritable tragédie qu'a vécue le commissaire Jobbik. On en a beaucoup parlé à cette époque-là, littéralement persécuté par une certaine magistrature, parce qu'il avait déplu à un certain milieu. On parlera de ça, de ce livre, et on essaiera de voir un petit peu plus loin que le cas du commissaire Jobbik, qui, Dieu merci, a été réintégré dans toutes ses prérogatives et dans tous ses droits, et dans, à qui on a rendu son honneur. Mais on verra que...
Ça lui laisse quand même des cicatrices,
c'est sûr. C'est sûr. Voilà, et puis à ma droite, j'ai... mon excellent camarade Alain Robert qui vient de...
C'est très drôle. Là,
c'est moyennement drôle. Paul.
Oui.
Paul Roland. Non.
Oui, c'est ça. Allô.
Paul Robert, bien sûr. Paul Robert qui participera à la deuxième partie de l'émission de 19h30 à 21h qui sera consacrée à Brasillach puisqu'il y a aujourd'hui 45 ans, 46 ans exactement, le 6 février 1945, Robert Brasillach tombait sous les balles du peloton que lui avait envoyé le général de Gaulle. On parlera de Brasillach avec François Brignot, Anne Brassier, Pascal Louvrier. François Brignot, vous savez pourquoi, c'était un ami, on peut peut-être dire un disciple, mais il nous le dira lui-même, de Brasillach. Quant à Anne Brassier et Pascal Louvrier, ils sont nos amis et les auteurs, chacun d'un livre sur Brasillach, qui s'ajoute au livre de Jean Madiran et à différents autres ouvrages publiés sur la même question. Et puis nous terminons par la chronique de Bruno Maigret. Voilà le programme de la soirée. Donc, si ça vous plaît pas, vous avez la ressource de regarder cette télévision.
Oui, bah, je ne sais pas ce qui va se passer, Serge, parce que comme je suis arrivé en retard, comme tout le monde l'a remarqué, comme tu l'as fait remarquer aimablement, j'ai traversé avec ma voiture le 15e, une moitié du 16e, et j'ai essayé d'écouter les débuts de l'émission pour ne pas paraître trop idiot, et je n'ai rien entendu. Je ne sais pas si nous sommes...
Il faut avoir un poste.
C'était pas Radio Courtoisie, c'était Radio Londres. De temps en temps, j'entendais le bel organe de Serge nous dire « La France ».
Oui, non, mais il faut avoir un poste dans ta voiture. Oui, parce que non, si tu essayes avec la dynamo, ça marche pas du tout.
T'as un très bon poste. Ah bon. Mais ce n'est pas une voiture à pédale.
Non, mais en revanche, tu as peut-être pu entendre Radio Tour Eiffel.
Non, c'était c'était Maelstrom bizarre.
C'est-à-dire, ils ne prennent même plus la peine de faire des émissions, comme personne ne les écoute. Ils se contentent de bourrer au maximum pour qu'on ne nous entende pas, nous. C'est bien, monsieur Chirac, encore, je vous adresse toutes mes félicitations avec l'expression de ma vive sympathie pour le joli travail de censure auquel vous vous livrez par l'intermédiaire de votre radio privée. Extrêmement privée, d'ailleurs. Privée d'auditeurs, avant tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet.
Serge, petite instruction, on a une minute. Puisque je pense que la partie, enfin cette émission va être peut-être un petit peu dramatique, enfin surtout dans sa deuxième partie, est-ce qu'on peut faire une petite plaisanterie au démarrage ?
Parce que je voulais que ce soit pas un jeu de mots qui conduira dans la 17e chambre.
Pas du tout. Je voulais simplement, d'une part, me moquer de toi.
Ah, ça c'est bien. Ça t'as le droit. Tu risques pas d'être poursuivi.
J'ai lu tes prévisions à propos des victoires de la musique dans Minute, et je m'aperçois que tu t'es mais complètement gouré.
J'ai tout faux.
Complètement gouré.
Bruel n'a rien eu.
Et c'est un scandale.
Et je me demande d'ailleurs si les auteurs, les distributeurs des victoires devraient pas aller devant la 17e.
C'est un scandale. Parce que
ne pas donner de prix à Bruel, d'ailleurs le Parisien l'a très bien dit, C'est un scandale, tu as tout à fait raison. Et je me demande si c'est pas un peu comme poser des questions.
Oui.
Je me demande. D'ailleurs, est-ce que les distributeurs des Victoires de la Musique ne seraient pas inspirés par les mêmes motifs que ceux qui posent des questions?
Oui.
Je me pose la question, si j'ai encore le droit, parce que je ne vais pas me retrouver dans
la
vie.
Si tu m'accordes 30 secondes, je vais t'expliquer pourquoi. C'est très rapide. Quand on connaît un petit peu le marché du disque et le marché du showbiz, la population qui achète les 45 tours de variété française est une population entre 12 et 15 ans.
De jeunes crétins.
Urbanisée. Et dans une couche de population qu'on situe dans le tiers en dessous de zéro.
C'est ça.
Ça veut dire à peu près entre 30 et 40% d'immigrés. Et d'immigrés musulmans. Donc ça ne sert à rien d'aller faire la promotion de M. Bruel, qui n'est pas de la même religion, alors qu'on sait très bien qu'on ne vendra plus de disques de lui dans ces milieux-là, à partir du moment où il a démissionné de SOS Racisme. Donc, c'est une des explications. Mais ça fait quand même, parce que c'est un manque à gagner. Donc, on ne va pas perdre son temps à faire.
Parce que
C'est un cas de racisme envers M. Bruel.
Tu veux dire par
c'est
là
évident.
Que le système d'attribution des prix, par exemple, que ce soit les prix de théâtre, les prix de cinéma, ou les prix de chansons, ou les prix de n'est pas parfaitement rigoureux.
Ah, bah c'est que. Mais moi, quand j'accorde un prix au Cœur Montjoie Saint-Denis, c'est parce que je sais que je vais vendre des cassettes du Cœur Montjoie Saint-Denis.
Donc, le Cœur Montjoie Saint-Denis, d'ailleurs, je remarque, n'a pas eu non plus les victoires de la Zizi.
Alors, je crois qu'il faut arrêter là et passer à des choses sérieuses.
Voilà, alors, Marc Dem, il y a quand même une question, moi, qui me taraude depuis quelque temps, enfin, au moins depuis le début de cette guerre du Golfe, c'est que. C'est la position de l'Église. Parce qu'en fait. Si on veut, d'habitude, un catholique se dit, avant de trancher définitivement d'une question, qu'en pense mon curé, ou qu'en pense mon évêque, voire même, s'il est particulièrement bien placé, qu'en pense le pape. Or, là, apparemment, tous les curés pensent pas la même chose, mais ça c'est pas nouveau, tous les évêques ne pensent pas la même chose non plus, c'est plus embêtant, et on sait même pas, au fond, si le pape pense vraiment quelque chose de cette affaire. Alors, est-ce qu'il y a une position de l'Église sur la guerre en général?
Sur la guerre en général, je n'ai pas retrouvé exactement le passage de saint Thomas avant de partir, donc je ne pourrais pas vous dire dans quelle question il en parle. Mais c'est bien connu, la guerre, l'Église n'est pas contre la guerre lorsque c'est une guerre destinée à défendre son foyer, ses foyers, sa patrie.
Donc, c'est pas la notion de guerre du droit ou de guerre du bien contre le mal qui intervient, c'est uniquement une question de défense de sa patrie, de son foyer, de sa famille.
C'est exactement cela. C'est une guerre qui est destinée, elle est imposée, quand elle vous est imposée, et que vous avez à défendre les vôtres, l'Église a toujours dit que cette guerre était tout à fait juste et n'a jamais condamné. Ces actes de guerre, à condition, bien sûr, qu'ils soient le plus humain possible, autant qu'on peut être humain en faisant la guerre. Mais vous n'ignorez pas que la trêve de Dieu, par exemple, était un moyen d'humaniser la guerre, et que ça remonte très loin, puisque ça remonte au concile de Charroux.
Concile de Charroux.
Dont je n'ai plus la date exactement en tête, mais enfin qui montre que dès le haut Moyen-Âge, l'Église intervenait pour éviter le plus possible les atrocités et puis les cruautés en temps de guerre. Bon, pour le reste, je ne peux pas me prononcer moi au nom de l'Église, mais je me demande si aller défendre les sources de pétrole, si c'est assimilable à la défense du foyer.
Il y a un beau foyer d'ailleurs.
Surtout pour les gens qui se chauffent au mazout.
Au mazout, voilà. Oui.
Mais c'est évidemment élargir le motif guerrier. En tout cas, ce que nous voyons, c'est évidemment que tous les évêques ne sont pas d'accord sur ce point, que le pape, lui, n'a cessé de dire « plus jamais la guerre ». C'est son motif.
Sur les évêques, il y a quand même, en France, on est confronté à un vrai, vrai dilemme. Parce que, d'une part, on a notre excellent camarade Gaillot, qui dit « en aucun cas la guerre ». Et d'ailleurs, je crois que c'est hier soir ou avant-hier soir, quand on lui a posé la question de savoir quel aurait été son comportement en 40, enfin en 39 d'ailleurs plus précisément, et jusqu'en 45, il a refusé de répondre. C'était vraiment une question tellement bête qu'elle ne méritait pas de réponse. Et en fait, ça l'arrangeait bien d'avoir cette attitude, parce que il était bien empêtré dans ses contradictions, ce pauvre Gaillot. En revanche, Lord de Courtrai, qui est en quelque sorte le boss de Gaillot, puisqu'il est quelque chose dans la hiérarchie de plus que Gaillot, alors lui, c'est carrément Monseigneur Vatanguerre. Lui, il est pour la défense de l'honneur.
Oui, Monseigneur de Courtrai n'est plus président de la...
Ah, il est l'ancien président de la conférence,
épiscopale, puisqu'il a été remplacé il y a quelques jours, en fait,
c'est
très récent. Mais enfin, il garde un prestige au moins national. Mais il faut bien se souvenir que cette opposition est ancienne. Déjà en 1983, l'Église de France et l'Assemblée de Lourdes avaient travaillé sur la question du désarmement. Et à ce moment-là, elle avait décidé, elle avait mis aux voix cette question, est-ce qu'il faut désarmer ? Et par 93 voix contre 2, les évêques ont décidé, se sont prononcés, si vous voulez, contre un désarmement unilatéral, et ont justifié la menace atomique. Ils n'ont pas dit l'emploi atomique de l'arme atomique, mais la menace, la dissuasion. Ils l'ont justifié. Et à ce moment-là, il y a eu une empoignade à cette assemblée entre Mgr Gaillot, qui n'était pas évêque depuis très longtemps, et puis Mgr Julien, l'un étant le pacifiste qu'il est toujours, et le deuxième défendant la position générale. Comme il s'appelle, c'est Jacques Julien et Jacques Gaillot. J'avais raconté dans un livre, je ne sais plus lequel, la querelle des deux Jacques. Mais déjà, à ce moment-là, il y avait eu un très grand... Mgr Gaillot avait fait sensation en s'opposant presque tout seul à l'ensemble de ses confrères dans l'épiscopat. Donc, on ne peut pas s'étonner que maintenant, il suive ça. En cela, il est cohérent.
Mais les évêques sont plutôt silencieux en général, vous qui suivez toutes leurs interventions, leurs déclarations, veux-je dire, pour ne serait-ce que pour pouvoir en faire état dans votre lettre confidentielle d'information religieuse qui s'appelle Iota Unum, et à laquelle on peut s'abonner, on dira ça tout à l'heure. Et qui est bourrée d'informations passionnantes. Alors, vous les suivez, vous les écoutez, vous êtes un
des rares. Je note tout ce qui se dit. Je n'utilise pas tout parce qu'il y a beaucoup de redites. Le grand cri général, c'est arrêter la guerre, négocier, faites l'impossible pour que cette guerre ne continue pas.
Donc c'est un peu des vœux pieux tout ça. Bon, on ne s'attendra pas que des évêques fassent des vœux pieux, c'est quand même la moindre des choses.
Mais ça devient extrêmement lassant, c'est vrai, parce que c'est toujours la même chose.
Font des propositions ? Est-ce qu'ils agissent un peu ?
Eh bien, je crois que c'est très vague, je n'ai rien vu de très très précis. Mais alors, un problème qui se pose, c'est est-ce que c'est une guerre religieuse ou non ? Ou est-ce que ce n'est pas une guerre religieuse ? Et là, il est très amusant de voir les positions différentes. Bon, tout le monde sait déjà que pour Saddam Hussein, c'est une guerre sainte. Pour Monseigneur...
Enfin, c'est une guerre barbouillée en guerre sainte.
Oui. Enfin, il l'a déclaré tel. Hein. Monseigneur Saba, l'archevêque de Jérusalem, le patriarche de Jérusalem, dit c'est un conflit Orient-Occident, donc ça se rapproche de la guerre sainte, enfin de la guerre religieuse. Le rabbin Josi Elsenberg pense que c'est une guerre de religion, une croisade du monde arabe contre la civilisation judéo-chrétienne. Le cardinal Lustiger, lui, dit « Il faut redire qu'il ne s'agit pas d'un conflit entre l'Occident et l'Islam, entre les chrétiens et les musulmans, ni encore moins entre la France et les Arabes.
Oui. » Donc il ne se passe rien.
Il ne se passe rien.
Ça, c'est plus du vœu pieux, ça c'est du wishful thinking, comme disent les Américains.
Et Mgr Villeney a...
C'est comme Jobs qui dit « Nous ne sommes en guerre contre personne. »
Voilà.
Et le premier soldat français qui reviendra dans
ça,
une...
Il faut dire finalement, il n'y a pas de guerre.
Le premier soldat français qui reviendra dans une glacière aura été tué probablement dans un accident de la circulation.
Ça arrive.
Une collision entre un obus...
Dans le désert, il n'y a pas beaucoup de panneaux indicateurs.
C'est ça. C'est formidable, ça, ce système de pensée lustigero-joxien qui fait que la guerre que vous ne voyez d'ailleurs pas à la télévision n'existe pas.
D'ailleurs, on pourrait très bien supprimer toute information concernant la guerre.
On pourrait supprimer toute absence d'information, vous voulez dire. puisqu'on ne sait rien.
Oui.
D'accord,
non, mais on en sait déjà.
Ne fait pas de mort.
Trop. On sait quand même qu'il y a
le
quelque chose
qui se passe. Trop, mais c'est pas grand chose.
Alors donc, voyez-vous, il y a une, on ne peut pas savoir, donc, si c'est une guerre vraiment qui oppose deux mentalités, plus que deux mentalités, deux croyances, d'une façon très, très générale, bien sûr, ou si ce n'est pas cela, si c'est un conflit uniquement politique. Voilà ce que l'on sait, ou tout au moins ce qu'on ne sait pas en écoutant les voix épiscopales et autres.
Les voix autorisées,
les voix autorisées, des responsables religieux. Alors, un problème qui semble plus important à nos évêques, en général, que les 50 millions de tonnes de bombes, c'est ça? Non,
50 000
tonnes de bombes.
50 millions de kilos,
dont vous avez parlé tout à l'heure. Ce qui les gêne le plus, c'est que c'est ce qui va se passer en France. Est-ce qu'on ne va pas en profiter pour casser la figure aux Arabes? L'épiscopat français, par la voix de la Commission épiscopale des migrations, affirme dans une lettre toute récente avoir constaté un accroissement des réactions xénophobes, individuelles et collectives. Violences verbales, menaces, incidents, parfois affrontements physiques, etc. Je ne sais pas si ça vous a vraiment frappé, s'il y a vraiment de nombreuses manifestations de ce genre.
Non, je crois que c'est la preuve que ces gens-là disent n'importe quoi. Ils disent absolument n'importe quoi. J'ai entendu 3 ou 4 fois Le Pen ces dernières semaines. Il n'a pas cessé d'appeler à la plus grande, au plus grand civisme, au respect scrupuleux de la légalité. Il a interdit plusieurs fois, a-t-il dit, à tous ceux qui sont militants, sympathisants, adhérents ou simplement proches du Front National d'agir contre la légalité et surtout de s'en prendre aux immigrés qui ne sont pas en cause, puisqu'encore une fois, la politique du Front National n'est pas une politique dirigée contre les immigrés mais contre l'immigration, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. L'immigration étant la politique appliquée par la bande des quatre depuis on ne sait pas combien d'années, d'ailleurs depuis toujours, et les immigrés étant eux-mêmes victimes de cette politique, ça c'est tout à fait clair. Donc en fait, il ne s'est rien passé depuis quelques semaines en France, et en tout cas depuis le début de la guerre, pour en avoir parlé avec certains de vos collègues, commissaire Le Taillantaire, ou de vos anciens collègues, j'ai appris qu'il y avait une très nette diminution de la criminalité et de la délinquance, très nette, qui était probablement liée, disent les policiers, au fait que la communauté immigrée en France fait sa police intérieure en disant aux éventuels amateurs de mauvais coups, tiens-toi à carreau, c'est pas le moment de la ramener.
J'ai rencontré tout à l'heure quelqu'un qui m'a dit que son père était policier à Verneuil-sur-Seine et que actuellement il était très heureux, très tranquille, parce qu'il n'y avait presque plus d'intervention. Il ne se passait plus rien dans un secteur pourtant extrêmement dur.
Commissaire Le Taillantaire.
Oui, si vous permettez que je dise un mot à ce sujet. Il faut dire aussi que le ministère de l'Intérieur a mis sur le pavé, dans les rues, un peu partout, tellement d'effectifs de police que ça neutralise pratiquement la plus grande partie de la délinquance. À chaque fois qu'il y a eu des troubles importants ou qu'on a craint des troubles importants et qu'on a déployé comme ça tout l'arsenal policier et toutes les troupes policières, à chaque fois on a constaté une chute spectaculaire de la délinquance qui n'avait rien à voir en ces circonstances-là avec les problèmes que nous connaissons aujourd'hui.
Alors c'est tout à fait intéressant ce que vous dites, parce que c'est la preuve par l'absurde, ou c'est la démonstration par l'absurde, de la sottise de ce qu'on nous a dit pendant des années. Chaque fois, par exemple, que Chirac a demandé une augmentation des effectifs de la police parisienne, le pouvoir socialiste lui a répondu, le ministre de l'Intérieur lui a répondu, c'est totalement inutile, ça n'est pas en multipliant le nombre des policiers qu'on résoudra les problèmes de la délinquance. Et ben là, on a la démonstration du contraire. Quand on multiplie les policiers et qu'on en met partout, et ben c'est dissuasif. C'est évident que quand une vieille dame se promène sur un trottoir où il y a 25 mètres entre deux CRS, le voleur de sac à main hésite quand même à faire son boulot. Ça me paraît tellement évident que je ne m'étonne même pas qu'un ministre socialiste soit incapable de l'imaginer. Et voilà. Alors, en tout cas, pour en revenir aux questions de la position de l'Église ou de l'épiscopat français, il faudrait que vous nous rappeliez, mon cher Marc, je donne la parole tout de suite à Michel, et je voudrais que vous nous rappeliez, mon cher Marc Dem, ce que vous venez de nous lire, là, ce texte complètement fou Qui émane de quelle institution ?
La Commission épiscopale des migrations.
Et qui a vu quoi ? Alors répétez-nous. Ils ont constaté...
Un accroissement des réactions xénophobes, individuelles et collectives, violences verbales, menaces, incidents, parfois affrontements physiques, etc. Je n'ai pas tout mis parce que je n'ai pas beaucoup de place. Vous savez, nous condensons beaucoup.
Ces gens-là sont des menteurs. Et... J'accuse ces gens d'être des menteurs. C'est extraordinaire. Quand on est membre de la Commission épiscopale immigration, on doit être un petit peu curé sur les bords, voire même à la limite évêque, pour peu.
Hein. On l'est en principe.
Oui. Enfin, eh bien, ces évêques sont des menteurs, j'ai le regret de leur dire.
Qui ne sont pas, qui
ou parler de proto-évêques ou sous-évêques.
Ils sont sous la responsabilité d'évêques, voilà. C'est sûr.
Donc l'Église de France est partiellement aux mains de gens qui sont des menteurs.
Et qui en profitent pour relancer l'œcuménisme qui s'essouffle.
Oui, l'œcuménisme islamo-chrétien.
On se réunit, hein, on met des musulmans, on met des juifs et des chrétiens, et puis on prie tous ensemble pour la paix. Alors, donc, vous voyez, c'est une occasion
mais
de relancer.
Mais pourquoi on
ne
met pas aussi des adorateurs de l'Oignon ?
Ah ben, on en met aussi.
Ah, aussi.
Oui, quand ça se trouve, hein, parce qu'il n'y en a pas partout.
Ah, j'en connais.
C'est quand même ben, vous donnerez quelques adresses.
Mais il faut dire qu'il y a un schisme. Parce que chez les adorateurs de l'Oignon, il y a maintenant les adorateurs de l'oignon cuit. Ah oui, alors ça provoque des drames absolument épouvantables. Oui, oui. Il y a eu des excommunications entre adorateurs de l'oignon cru et adorateurs de l'oignon cuit.
Pardon, je crois que c'est l'oignon frit.
Frit. Non, ça c'est l'oignon, une deuxième...
L'oignon frit à l'huile.
C'est une dissidence de l'oignon cuit. Ça, c'est dramatique. Alors, mais au fond, ils prient tous le même Dieu, ils prient l'oignon. Donc, là aussi, ils pourraient faire œcuménique.
J'ai compris la différence.
Mon cher Michel,
les adorateurs de l'oignon cru passent leur temps en cérémonie à pleurer, alors que les adorateurs de l'oignon frit, au moins, peuvent rire, peuvent sourire.
Oui, on ne peut pas dire ce qu'ils font, parce que tu sais que l'oignon cru, cuit, ça a des capacités. Enfin,
provoque des flatulences.
Voilà, c'est ça, provoque des flatulences. Alors, il y en a qui pleurent et d'autres qui font autre chose. Bien, cet intéressant débat, nous allons le clore provisoirement pour revenir au cœur du sujet. Non mais, je veux dire, quand on voit ça, on ne peut se réfugier que dans la dérision, ma pauvre Victoria, qui est choquée par ce que je viens de dire.
La dérision me fait souffrir.
Et on ne peut se réfugier que dans la dérision. Quand on voit à quel niveau de ringarderie on en est arrivé, à cause de cette guerre, d'ailleurs, qui est la guerre la plus ennuyeuse, il n'y a pas de mort. La guerre la plus ennuyeuse... Ben non, on n'est pas au courant, on n'en voit pas. Et il n'y a même pas de photos. C'est extraordinaire. On voit des choses. On a l'impression que c'est une guerre presse-bouton, une guerre Nintendo. On
si vous avez, vous, là, vous n'avez pas bien regardé les magazines, Serge, car il y a de nombreuses photos, de nombreuses pages de photos sur Tel Aviv, les destructions à Tel Aviv.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, je lisais parce qu'on me passe une information là, qui est quand même assez rigolote. Je ne sais pas si elle est destinée à la publication sur les ondes, mais on verra tout à l'heure, je la dirai. Alors, il y a... Oui,
par
Michel
rapport aux évêques, je voulais dire quelque chose. Leur gêne peut s'expliquer également par le fait que la guerre pour un catholique, c'est la conséquence du péché, c'est un mal, et cela montre, cela prouve que qu'il y a un désordre dans l'homme, que l'homme n'est pas naturellement bon, et cela va à l'encontre de ce qu'enseigne plus ou moins peu ou prou une bonne partie de l'épiscopat aujourd'hui et du clergé. Et donc, quand ils se trouvent confrontés à un phénomène de guerre et qui touche des Français, eh bien, ils sont gênés, ils ne savent pas forcément quoi répondre parce que ça ne rentre pas dans les clichés. Ça ne rentre pas dans les clichés. Et alors, la notion de guerre juste, effectivement, est complètement bannie aujourd'hui du langage de la plupart des prêtres dits progressistes parce que pour eux, c'est quelque chose qui n'existe pas, qu'il faut sortir de l'entendement. Bien sûr que la guerre est malheureuse, mais ce n'est pas parce que l'on n'en parle pas qu'elle n'existe plus. Et je pense qu'on peut trouver une des raisons de leur gêne. Ils savent pas quoi répondre, ils répondent n'importe quoi. Et on va de l'appel à la désertion de Mgr Gaillot à la guerre à outrance de Mgr de Courtrai.
Avec toute la gamme des...
En Italie, c'est Pax Christi. Et puis un autre mouvement, deux autres mouvements, dont Caritas Italiana, qui ont envoyé des milliers de lettres aux jeunes Italiens pour leur dire, pour les inciter à l'objection de conscience, s'ils sont appelés.
Mais Pax Christi, c'est pas ce mouvement qui était très proche de l'Union soviétique ?
Non, c'est pas le mouvement Pax.
C'est pas Pax.
Non, c'est tout à fait catholique, ça. C'est, c'est pontifical. C'est quelque chose de bien, bien entré et bien reconnu dans l'institution. Alors, bien là-bas, le secrétaire général de la conférence épiscopale italienne était, lui, alors bien ennuyé. Parce que ça provoquait, bien sûr, des réactions. Et il a publié un texte très, très difficile à comprendre, où il dit que, depuis le Concile, l'Église met sur le même plan le service militaire et l'objection de conscience, qui sont également dignes, des positions également dignes. Mais on peut faire de l'objection de conscience, mais surtout pas la désertion. La désertion est tout à fait condamnable. Voyez-vous, c'est assez... C'est difficile à redire parce que quand vous lisez le texte, vous avez beaucoup de mal à voir ce qu'ils veulent conseiller ou ce qu'ils veulent interdire.
Ça fait penser à cette histoire du jésuite qui est en voiture et qui demande son chemin à un paysan. Vous la connaissez certainement. Et le paysan lui dit, mon pauvre monsieur, ça sert à rien que je vous donne le chemin, vous ne trouverez pas. Alors le jésuite lui dit, écoutez, vous me permettrez de juger moi-même, indiquez-moi toujours le chemin, et puis je verrai bien si je trouve ou si je trouve pas. Oh, c'est pas la peine, vous ne pourrez point y arriver. Vous pourrez point y arriver. Enfin, écoutez, dites-moi quand même où c'est. Mais je vous dis que vous pourrez point y arriver, c'est tout droit. Voilà. Alors, il y a une auditrice qui fait une remarque tout à fait judicieuse. Elle dit que le départ vers le Golfe et la défense des puits de pétrole, ou tous ces pays qui envoient leurs troupes pour défendre les puits de pétrole, la fait penser à la course des vierges folles de l'Évangile qui partent pour chercher de l'huile pour leurs lampes. Hélas, trop tard.
Oui, c'est très juste. C'est très pertinent.
J'ai une petite question à poser également. Je vois que la conférence devait se prononcer aussi, enfin je ne sais pas, j'ai entendu parler de ça l'autre jour, sur les bombardements le dimanche. Comme quoi on devait le dimanche respecter une trêve je n'ai aucune idée là-dessus.
Je n'ai pas connaissance qu'elle l'ait fait.
Mais ça, c'est pas la peine de le préciser. Je crois que c'était un des aspects les plus intéressants du fameux concile de Charroux dont vous parliez tout à l'heure, qui fixait très exactement les règles de la guerre, c'est-à-dire qu'il s'était arrangé, à l'époque où l'Église était sérieusement écoutée, il s'était arrangé pour qu'on puisse pratiquement pas se battre plus de 5 heures par jour, 3 jours par semaine.
C'est ça.
Donc,
et puis respecter telle et telle catégorie.
Il y avait des catégories absolument interdites de gens à qu'on n'avait pas le droit de tuer.
Il y avait les femmes, les enfants,
des endroits où on n'avait pas le droit de se battre.
Les périodes liturgiques.
Et il y avait les périodes, c'est ça.
Il faudrait qu'ils se dépêchent. Le carême, c'est dans une semaine. Hein, donc, pour le golf.
C'est dans une semaine.
C'est mercredi prochain.
C'est trop bête. J'ai cru que c'était aujourd'hui, le mercredi décembre. J'ai commencé aujourd'hui.
Est-ce que le ramadan, ce n'est pas en même temps?
Je ne sais pas. Je ne me sens pas directement concerné.
Vous avez tort parce que Monseigneur Villeney propose presque, et je vais vous lire parce que ça vaut vraiment le coup, que nous fassions le carême en union avec les musulmans qui font le ramadan, puisque c'est en même temps à peu près cette année. Et il dit, ce sont ses termes exacts, « Voici que s'annonce le carême, vers le milieu duquel les chrétiens verront les musulmans entrer dans leur ramadan. » À l'évidence, cette année, fidèles et communautés vont s'engager dans cette marche collective vers Pâques. Avec vigueur et ferveur, la route de la conversion du cœur, du pardon, du partage, du jeûne et de la prière sera plus un chemin de montagne qu'un sentier de plaine à peine escarpé.
C'est de la folie délirante.
Alors ça, je pose quand même des questions pratiques. Est-ce que nous pourrons taper la cloche la nuit? Peut-être.
Oui,
Faudrait demander ça pourrait être intéressant.
Mais en plus, les musulmans vont vers Pâques.
Oui.
La fin du carême, donc c'est Pâques.
C'est la marche collective vers Pâques.
Du ramadan, c'est Pâques. La marche collective vers Pâques, c'est ça. Bon, d'accord. Très bien, rien à dire. Tout ça est absolument parfait. Alors, c'est quand même curieux parce que ça m'amène à poser la question que j'allais poser. Ça confirme une des inquiétudes qui inspire cette question. De plus en plus de gens disent que cette situation, la situation d'aujourd'hui, ressemble à une situation pré-apocalyptique. C'est-à-dire, par exemple, je lisais dans les prophéties de Pie XII, qui a été publié par Bouillet de Bellefer, il y a trois ans maintenant, que Pie XII avait annoncé la guerre du Golfe. Et il avait dit, si on n'arrive pas à s'entendre, si les grandes puissances ne s'entendent pas avant 90, quelles que soient les forces mises en présence, quelles que soient les dépenses consacrée à cette affaire, ça n'en finira plus, ça dégénérera en une véritable catastrophe mondiale. Or, on est en plein dans cette situation. Il semblerait que dans plusieurs prophéties, on trouve des aspects qui viendraient confirmer cette hypothèse. Et quand on voit des évêques, ou quand on entend des évêques tenir ce genre de propos, on est au cœur de la confusion des esprits, qui sera un des aspects de la fin des temps. Alors, est-ce que vous avez, vous, dans vos recherches, Marc Dehm, des choses qui vont dans le même sens ou qui vont dans le sens contraire ?
Eh bien, le pape a parlé à plusieurs, au moins deux reprises, de cette vision, enfin, de cette échappée apocalyptique, en disant à Noël, dans son message de Noël, la guerre dans le Golfe serait une aventure sans retour. Il a dit ensuite, vers le 15 janvier, ce serait l'amorce du déclin de l'humanité. Je crois que ça veut dire ce que ça veut dire. Et alors, j'apprends, parce que je ne le savais pas.
Vous connaissez aussi l'histoire du gars qui dit « Je sais avec quoi on a fait la Première Guerre mondiale, je sais avec quoi on fera la Deuxième, je sais avec quoi on fera la Troisième, je sais avec quoi on fera la Quatrième, avec des pierres et des bâtons. » Donc, on est au cœur du problème. Le déclin de l'humanité.
Le déclin de l'humanité.
C'est le remplacement de la bombe atomique par des pierres et des bâtons.
Alors, il paraît qu'il y a un quatrième secret de Fatima. Le troisième, maintenant, tout le monde le connaît, paraît-il.
Ah, il a été...
On le sait. Bien.
Probablement découvert par le frère Michel de la Trinité.
C'est cela. Alors, il y en aurait un quatrième qui est révélé, tout au moins dont l'existence est révélée par une revue de Stuttgart. Et ce quatrième secret, seul le pape le connaîtrait. Et le pape, ajoutons, le révélera juste avant que tout n'explose. Quand je vois ça, je me montre assez peu crédule par rapport à ce quatrième secret, et je me dis que de le révéler juste avant que ça n'explose,
c'est maintenant. Que tu savais.
Oui, c'est maintenant qu'il faudra le
Moi,
faire.
Moi, je le savais, là, l'air. C'est ça qu'il va faire. Oui. Paul Robert.
Oui, la presse israélienne, je crois, ce matin, se faisait l'écho donc d'une analyse de certains rabbins qui rapprochent les événements du Golfe actuel à l'épisode de la Bible qui ramène à la destruction de Babylone par les étrangers.
Les tribunes juives, il revient toutes les semaines, il y a une page qui est consacrée à l'annonce de la guerre du Golfe dans la Bible, enfin dans la Torah, et par le Talmud et par les Mitzvah, ou en fait, je ne sais pas si
c'est... Non, mais c'est la Bible, tout à fait, la Torah,
et,
tout simplement.
Oui, bien sûr. Mm. Et c'est d'ailleurs fort intéressant, parce qu'effectivement, il y a l'annonce de la destruction de Babylone par les troupes étrangères, mais ce n'est pas la fin. C'est après que ça devient très intéressant. Voilà. Un catholique se fiche de ne pas être dans le périmètre visible de l'Église et se sent très triste de voir de Beketch attacher autant d'importance aux propos tenus par des évêques et prélats qui ne sont plus catholiques. Oui, mais ça, bon, c'est vrai, mais le débat reste comme ils sont encore dans l'Église, puisque eux n'ont pas été excommuniés, on est bien obligé de tenir compte de ce qu'ils disent.
Oui, il faut quand même se tenir au courant de ce qui se passe. Ne fût-ce que pour avoir une opinion contraire.
Une petite incidente.
Quand il y a lieu.
Un auditeur nous dit, sur l'affiche Le Pen, ce sont des caractères hébraïques qui veulent dire « demain ». Alors, il faudrait savoir.
Eh ben, demain,
ça veut dire pareil. Oui, mais enfin.
Oui, mais on me demandait les caractères arabes, pas les caractères hébraïques.
Parce qu'il y en a aussi avec des caractères hébraïques.
Oui.
Des caractères chinois, des caractères cyrilliques, il y a tout, il y aura tout.
Voilà.
C'est polyglotte, alors.
Alors, mon cher Marc, vous étiez en train de nous exposer à l'instant même l'éventualité d'une apocalypse annoncée par la situation. Vous parliez de cette revue de Stuttgart. Est-ce que vous avez d'autres découvertes récentes qui vont dans
Non,
ce
comme
sens
vous êtes friand, je le sais, autant que moi, du chiffre de la bête.
Ah oui, bien sûr.
666. Je voulais vous dire aussi et dire à nos auditeurs, qu'on a parlé à certains moments d'un passage de l'Apocalypse où il est dit, à ce moment-là, c'est peu avant la fin, chacun aura le signe de la bête sur le front
ou
sur la main, sur la paume de la main, et on ne pourra, nul ne pourra plus vendre ni acheter sans avoir le signe de la bête à cet endroit-là. Alors, on a dit, c'est une chose qu'on connaît depuis quelques années, qu'il y avait un projet de cet ordre aux États-Unis, de faire une sorte de banque centrale qui supprimerait l'argent. Et lorsque vous iriez acheter un paquet de tabac ou une sucette, eh bien, on passerait sur votre front ou sur votre main, au choix, le petit instrument qui aujourd'hui sert à déchiffrer le code barre. Et puis c'est tout. Vous sortez avec votre achat. Et tout cela s'en va à la banque centrale qui vous décompte, qui vous débite de la somme voulue. Et ça continue comme cela. Quand vous êtes payé, touchez votre salaire, vous ne recevez pas un chèque ou autre chose. On vous crédite. Bien. Alors, cela permettrait au gouvernement, qui serait mondial, bien sûr, de connaître exactement où vous en êtes et puis de vous.
Et où vous êtes.
Et puis de vous taxer comme il le veut, sur toutes les opérations qu'il voudra taxer. Il n'y aura plus rien qui se fera au noir, il n'y aura plus rien qui se fera de gré à gré. Et tout cela, ça paraissait quelque chose d'un peu phénoménal, d'un peu mythique, utopique. Et il semble que, d'après des renseignements que je voudrais, sur lesquels je voudrais enquêter, d'ailleurs c'est ce que je me propose à faire les jours qui viennent, on donne maintenant, une source donne des noms. Il y aurait non seulement à New York, à la Banque Royale du Canada et au Canada, un projet de ce genre bien avancé déjà, mais je lis ceci dans un journal canadien. Le docteur Henrik Eldeman, analyste en chef de la conférence du marché commun, a dévoilé à Bruxelles qu'un plan de restauration par ordinateur est déjà en marche devant l'imminence du chaos mondial. Là, il doit y avoir une erreur de traduction. Restauration, on ne voit pas très bien ce que ça veut dire. Lors d'une réunion d'urgence qui groupe à la fois des savants, des conseillers, des dirigeants, le docteur Eldeman dévoila la bête. Il l'appelle la bête.
C'est extraordinaire.
La bête est un ordinateur gigantesque occupant trois planchers de surface de l'immeuble administratif du siège social du marché commun.
Vous connaissez également cette histoire du grand ordinateur qui rassemble tous les ordinateurs de la planète en réseau et à qui les savants posent une question. Alors ils se réunissent longtemps avant pour savoir quelles questions ils vont poser, ils en discutent et finissent par voter. Ils posent la question « Dieu existe-t-il ? » L'ordinateur répond « Maintenant, oui. »
C'est très bon.
Mais je vous ai coupé. Alors la bête...
Oui,
donc,
alors ce plan de maître impliquerait un système de dénombrement chiffré de chaque être humain de la Terre. Donc l'ordinateur attribuera à chaque habitant du monde un numéro, etc. Bien, or, le signe de la bête que vous aurez sur le front, et qui sera invisible, mais qui sera soit tatoué d'une façon invisible, soit sous forme d'une puce microscopique insérée sous la peau, des deux côtés, on dit, consiste votre chiffre à vous, votre numéro à vous d'immatriculation, si vous voulez, consistera en trois données de six chiffres chacune.
Très étonnant. Très, très étonnant.
Bien, cela demande quand même à être recoupé, vérifié, etc. Mais enfin, les renseignements qui parviennent commencent à être consistants. Ce n'est plus un projet dans l'espace, c'est quelque chose avec des noms, avec des lieux que l'on cite, etc., qui pourrait convenir à une époque pré-apocalyptique.
Eh bien, mon cher Marc Dem, je vous remercie. Je signale à nos auditeurs que c'est le genre d'information, entre autres, qu'on trouve toute la semaine dans la lettre confidentielle d'information religieuse Iota Unum, à laquelle on peut s'abonner en envoyant un chèque à la boîte postale
numéro 52
Saint-Germain-en-Laye.
Saint-Germain-en-Laye. 78-101.
Alors, le chèque est de combien ?
Alors, on peut s'abonner tout de suite, c'est le mieux qu'on ait à faire. Bon, enfin, 650 francs pour l'année, c'est hebdomadaire. Hein. c'est une lettre hebdomadaire. Ou bien, si vous n'êtes pas, si vous vous demandez un peu ce que c'est, que vous ne connaissez pas suffisamment, vous pouvez, en nous envoyant votre carte de visite, ou bien sûr, une feuille de papier avec votre nom et votre adresse, vous recevrez les trois prochains numéros gratuitement, de façon à vous faire une idée de cette lettre hebdomadaire et de voir si elle vous convient, si elle vous intéresse.
Alors, donc, Iota Unum, boîte postale 52, Saint-Germain-en-Laye.
Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, 78-101.
Merci, mon cher Marc. Merci de votre visite. À bientôt, j'espère, sur les antennes de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la
francophonie.
Programme national 95.6. Voilà. Mon cher Michel Valadi, on va à peine sortir du sujet. C'est tenu samedi et dimanche dernier, le congrès de Renaissance catholique. Alors, est-ce qu'on peut faire un point rapide de la situation de Renaissance catholique ? Alors, en deux mots, d'abord pour les auditeurs qui ne sont pas forcément au courant, qu'est-ce que Renaissance catholique ?
Bien, Renaissance catholique est un mouvement qui a été créé il y a un peu plus de 2 ans, maintenant presque 3, qui est dû à un sursaut à l'époque où Monseigneur Lefebvre Rome avait engagé des négociations avec Monseigneur Lefebvre en vue de donner un statut à la fraternité Saint-Pédis. Et donc l'on sait maintenant, avec 2 ans de recul, que ces négociations étaient faussées en quelque sorte, et qu'on a cherché à piéger en quelque sorte Monseigneur Lefebvre. Certains évêques français ne sont pas indemnes de responsabilité dans l'échec de ces négociations, donc qui a amené Monseigneur Lefebvre en dehors de la légalité, si j'ose dire,
administrative,
à sacrer des évêques contre l'avis du pape. Et à cette époque, nous avons lancé ce mouvement parce que nous avons donc voulu manifester notre soutien, notre confiance à Monseigneur Lefebvre. Nous avons donc lancé ce mouvement catholique qui a organisé un pèlerinage Paris-Chartres en 89, Chartres-Paris en 90, Chartres-Montmartre l'année dernière, qui s'est regroupé et qui a invité des personnes de bonne volonté à se regrouper en cellules de base que nous appelons chapitre permanent. Ça fait plus sérieux que cellule de base.
Plus gâteau surtout.
Plus gâteau surtout, oui. Qui donc travaillent tout au long de l'année, se réunissent, réfléchissent sur un certain nombre de points, se réunissent également par amitié, organisent un certain nombre de sorties, etc. Nous sommes un mouvement d'adultes. J'ai eu beaucoup de peine, d'ailleurs, toujours beaucoup de peine à dire quand on devient adulte, c'est toujours difficile, mais enfin...
Dans la tête que ça se passe en gros, quand même.
Voilà, exactement. Donc quand on se sent adulte dans sa tête, et là, on va jusqu'à la tombe, pour les adhérents du mouvement. Le but de notre mouvement, il est de travailler, d'œuvrer à restaurer une cité catholique, à redonner un ordre chrétien, un ordre social chrétien à ce pays qui fut chrétien et qui a renié son Dieu. Et c'est d'ailleurs, nous le pensons, nous l'affirmons, la cause de tous les maux. Nous pensons que l'Évangile, nous pensons que la foi catholique donne des réponses à toutes les questions que peuvent se poser l'homme moderne, et que ce bonheur que l'homme cherche à travers des expédients, à travers différentes petites choses, eh bien, nous catholiques, nous avons la chance de l'avoir, nous avons la chance de le connaître plus exactement, et nous voulons essayer de le faire partager. Pourquoi un mouvement de laïcs dans cette période de crise? Parce que, et Marc Dehm vient d'en faire la preuve une fois de plus, parce que l'épiscopat, parce que ceux qui devraient jouer le rôle de référence chrétienne dans ce pays, ceux qui devraient jouer le rôle de conscience chrétienne dans ce pays, qui devraient dire en face d'un événement comme la guerre du Golfe, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut penser, voilà comment il faut agir, eh bien ces gens-là ne font pas leur travail, ces gens-là ne font plus, ne disent pas. Alors on passe de la désertion au va-t-en-guerre, on a une espèce de bouillie de chat en disant, certains disent, Dieu ferme les yeux en temps de guerre, ce qui ne veut absolument rien dire. Et nous voulons, à notre place, à notre modeste place, sans évidemment nous nous substituer à la hiérarchie, mais quand la hiérarchie est défaillante, quand monsieur le curé dans mon village ou dans ma commune ne dit plus ce qu'il faut faire, eh bien je me sens le droit de dire à mon voisin ce qu'il faut penser de la guerre du Golfe, ce qu'il faut penser de l'avortement, ce qu'il faut penser de l'enseignement libre, etc., etc. Donc nous voulons essayer de jouer un petit peu ce rôle de référence chrétienne, très modestement à notre place, de conscience chrétienne peut-être aussi en luttant contre ce qui pour nous est le pire des mal actuellement, c'est notamment ce crime de l'avortement qui va bientôt être complété par la légalisation de l'euthanasie. Après avoir tué les plus petits dans le sein de leur mère, on va tuer les vieillards qui coûtent cher, qui ne servent plus à rien. Et nous voulons nous battre contre cela. Et là, une fois de plus, nous sommes obligés de constater que ceux qui devraient protester, eh bien, ne disent plus rien. Depuis le film de Scorsese où deux évêques diocésains ont élevé la voix et se sont fait taper sur les doigts, c'est terminé. Maintenant, on dirait qu'il n'y a plus rien. On dirait que tout est bien, que le mal n'existe plus. Nous voulons donc lutter contre l'avortement, lutter contre l'euthanasie, favoriser la vie sous toutes ses formes. Nous voulons également lutter, ça a été un des fruits de ce congrès, contre le scandale des manuels scolaires. Contre le scandale des manuels scolaires. Nous avons préparé une exposition au congrès que tu as pu voir, Serge, puisque tu nous as fait l'honneur de venir.
Non, quel honneur. Mais on fera une émission sur ce sujet, car j'ai vu là-bas des choses quand même assez renversantes. C'est-à-dire que ça mérite qu'on en parle longuement.
Et de fait, en préparant intellectuellement, on a dit on va faire quelque chose sur les manuels scolaires, mais quand vous mettez le nez dans les livres, eh bien on est assez effrayé, tant sur le plan des mœurs que sur le plan de la pensée, de la subversion de la pensée des enfants. Et nous avons appris que certains des ouvrages qui ont été exposés ne sont jamais dans les foyers parce qu'ils restent dans les écoles. Les éducateurs,
les parents n'ont pas le droit de les voir.
Les éducateurs les gardent, les conservent parce qu'ils appartiennent à l'école, et donc les parents ne les voient jamais. Et ne savent pas ce qu'il y a dedans, par conséquent, et donc ne voient pas ce avec quoi leurs enfants sont empoisonnés. Donc nous avons la lutte contre ce fléau de l'école, manuel scolaire qui touche aussi les écoles, bien sûr les écoles d'État, mais les écoles sous contrat.
Bien sûr.
Les écoles sous contrat utilisent ce genre d'ouvrage. Lutte également contre l'esprit, ce que nous appelons l'esprit révolutionnaire, qui est une forme assez large, qui va en dénonçant le bide centenaire, comme dit quelqu'un de célèbre, en dénonçant surtout l'esprit de la révolution qui inspire chacune des décisions, presque, ou la plupart des décisions de nos gouvernants actuels, qui contamine, qui est l'antithèse, qui est l'opposé, de l'esprit de Dieu, il n'y a pas de mélange possible entre ces deux états d'esprit. Lutter contre cela, en positif, assurer la promotion de notre patrimoine national, de notre patrimoine religieux. Nous allons développer tout un programme de voyages à travers la France pour nos chapitres, mais bien sûr ouvert à toutes les personnes, et nous allons proposer des séjours, des excursions de 24 heures à 48 heures à Verdun, en Mont-Saint-Michel, à Reims, à Lourdes, etc. Et puis essayer de reprendre, mais quand la guerre du Golfe sera terminée, des itinéraires à l'étranger que nous avons déjà organisés depuis 2 ans, que sont des voyages en Syrie, en Terre Sainte, pèlerinage en Terre Sainte, Turquie. Mais pour l'instant, c'est un peu compromis.
Au fond, c'est d'une certaine manière, c'est la cité catholique qui subvertit la cité anticatholique à travers Renaissance catholique. Parce que on voit bien que ce sont des activités qui portent beaucoup sur les aspects laïques de la société, sur des aspects institutionnels de la société laïque, je veux dire, et qui jouent sur les institutions directement, sur l'école, sur l'information et la désinformation. C'est une attitude tout à fait originale dans l'ensemble, dans l'éventail des mouvements catholiques.
Oui, c'est peut-être. En tout cas, nous ne sommes pas effectivement très 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 nombreux dans ce créneau. Mais je crois que notre force est justement de ne pas se contenter, j'allais dire, de nous regrouper. Il est important de regrouper, que les personnes qui sont mal à l'aise dans cette société, que les gens qui sont catholiques, qui ont des convictions fortes, se regroupent. Mais nous avons le désir d'attirer à nous toutes les personnes de bonne volonté. Et le meilleur moyen pour faire cela, c'est justement d'agir sur ce qui fait leur préoccupations, leurs problèmes quotidiens. Les manuels scolaires, c'est quelque chose qui doit toucher tous les pères et mères de famille dans ce pays de France. Lutter pour la vie, c'est quelque chose qui doit intéresser tout le monde. Nous le faisons en tant que catholiques parce que ces combats nous apparaissent comme étant prioritaires, mais nous espérons effectivement agir directement, agir en infléchissant, en créant un courant de pensée.
Un esprit de résistance.
Un esprit de résistance, et puis petit à petit jouer sur ce rôle de groupe de pression, ce que nous réussissons à faire dans certaines villes, où nous avons des chapitres qui obtiennent des résultats. Je n'ai pas parlé de cet aspect du combat, où nous avons réussi à faire désafficher, à faire enlever des affiches qui étaient plutôt licencieuses. Et ben, simplement le responsable du chapitre était voir le maire en disant ben voilà, c'est un scandale, et le maire, sachant que cette personne ne représentait pas qu'elle-même mais tout un groupe d'autres personnes, ne voulant pas avoir d'ennui, a fait enlever ses affiches. Et bien peu importe les motifs qui ont animé la décision du maire lorsqu'il a nettoyé sa rue, nous ce qui nous intéresse c'est que la rue soit propre. Et donc ça c'est un travail, il faut être présent sur le terrain, c'est un travail de tous les instants, mais nous le faisons comme catholiques. Et c'est en ce sens-là que nous sommes un petit peu peut-être original. Nous le faisons comme catholiques parce que nous pensons que nous avons la prétention de connaître la vérité. Nous avons la prétention d'être dans l'Église de Jésus-Christ, l'unique Église de Jésus-Christ. Et nous pensons que le message catholique a justement cet avantage de répondre à tous les aspects du problème. Et non pas seulement un seul des aspects. Nous ne sommes pas un mouvement qui lutte en faveur de la vie, qui lutte contre la pornographie. Nous embrassons un petit peu tous les problèmes et nous commençons par les plus prioritaires. On déblaye les gros morceaux avant de commencer par les miettes, et nous essayons de développer notre implantation donc à travers la France selon ce programme.
Alors il y a aussi une activité qui est très spécifique, mais qui va prendre de plus en plus d'importance. C'est en quelque sorte, je mets ça le mot entre guillemets, la défense du sanctuaire.
Exactement. Nous avons, en collaboration avec le CIELT, le Centre international d'études du linceul de Turin, nous associons à leur courageux combat qui consiste à essayer de laver l'injure à la science d'abord, qui a été faite par cette farce pseudo-scientifique de datation des évangiles du linceul au carbone 14.
Qui est le cinquième évangile, en réalité.
Qui est le cinquième évangile. Et donc nous allons et nous développons, nous avons déjà organisé une série de conférences et nous allons en organiser à travers toute la France. Je donnerai des dates d'ailleurs tout à l'heure si tu le permets, Serge. Et puis nous nous associons à la demande du CIELT en faisant suivre la pétition qu'ils adressent pour obtenir du Saint-Siège, qui est propriétaire du linceul, une ostension publique solennelle en 98 pour le centième anniversaire de la première prise de vue photographique du Saint-Suaire de Turin, et ostension publique qui sera justement une réparation de l'affront, parce qu'actuellement, encore une fois de plus, malheureusement, on peut penser, l'homme de la rue peut penser que l'Église, à travers l'archevêque de Turin, eh bien, a dit que le Saint-Suaire n'était pas authentique, était une peinture, était on ne sait pas trop quoi d'ailleurs, parce que on n'arrive pas à savoir comment il a pu être fait au XIIIe siècle.
Ils savent que c'est un faux, mais ils ne savent pas comment il a été fait.
Voilà. Formidable. Et donc, c'est un faux non créé, en quelque sorte.
Voilà.
Donc cette ostension publique réparerait, mais là ce que je voulais dire c'est que l'archevêque de Turin a dit clairement et a parlé au nom de l'Église, puisqu'il est successeur des apôtres, et une fois de plus l'Église n'a pas joué son rôle de repère, de référence, en donnant le nord, en exprimant le nord.
Alors tu nous promettais des dates de conférences.
Oui, des dates de conférences, et puis je voulais parler un petit peu de notre marche là que nous voulons réaliser. Alors, elles sont en mars, donc je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie que tu as la gentillesse d'informer régulièrement seront rappelés à ce moment-là. Le samedi 9 mars, nos chapitres du Val-de-Marne organisent une conférence projection sur le Saint-Suaire à la mairie de Brie-sur-Marne. Le 11 mars...
Tout ça, on le réannoncera.
Oui, Le 11 mars, nos chapitres de Paris organisent une conférence avec Élie Denoy de Saint-Marc. Alors c'est un autre domaine, mais là aussi, la connaissance du passé et de l'honneur, justement, des hommes d'honneur qui, dans le passé, se sont distingués. À la Maison des Mines, le lundi 11 mars à 20h, nos chapitres de Paris organisent une conférence avec le commandant de Saint-Marc. Et nous avons également, dans le courant du mois de mars, une après-midi organisée au Palais des Congrès de Versailles, le dimanche 24 mars, sur l'école, où les personnes qui n'ont pas assisté à notre congrès et qui désirent voir l'exposition sur les manuels scolaires pourront la voir, puisqu'elle sera exposée donc lors de cet après-midi, le dimanche 24 mars, au Palais des Congrès de Versailles.
Merci Michel. Non, tu veux dire encore un mot, je t'en prie.
Un mot, oui, parce que mais je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler si tu le veux bien. Nous avons annoncé à l'issue de notre congrès, d'abord je voudrais te remercier d'être venu et te remercier de nous avoir exhortés, et c'était quelque chose de très enthousiasmant que cette intervention où Serge nous a rappelé qu'il fallait être joyeux dans notre combat et qu'il fallait être visible, qu'il fallait savoir se montrer et se montrer dans la joie. Eh bien, l'activité nationale importante que nous organisons sera organisée le 20 octobre, le dimanche 20 octobre. Nous organisons une marche pour la vie qui fera 23 kilomètres, qui partira du château de Versailles pour se terminer au Sacré-Cœur de Montmartre, qui est un lieu de rassemblement réactivé ces derniers temps. Et c'est une marche pour la vie où nous invitons tous ceux qui luttent en faveur de la vie, donc tant en faveur de contre l'avortement, que contre l'euthanasie, pour essayer toujours une fois de plus de sortir les Français de leur torpeur, de l'indifférence dans laquelle ils sont plongés face à ce problème fondamental qui est celui de la survie de notre pays par la survie de nos enfants.
Ça, je pense qu'on en reparlera souvent, puisque Radio Courtoisie s'est associé énormément au combat, enfin de très près au combat contre l'avortement, et je pense qu'on continuera à le faire tant que cette radio continuera d'exister. Merci Michel. Merci, tu nous rappelles l'adresse de Renaissance Catholique?
Renaissance Catholique, donc là pour siège, c'est bureau 89 rue Pierre Brossolette, 89 rue Brossolette, à Issy-les-Moulineaux. Et le téléphone est le 46 62 97 04. 46 62 97 04.
Merci.
Merci beaucoup, Serge.
Sans désemparer, je me tourne vers le commissaire de Taillanterre, avec retard comme d'habitude, mais il ne m'en voudra pas.
Ça n'est pas grave.
Pour parler de son livre, Commissaire Jobbik, qui est consacré à l'affaire Jobbik, qui a, comme on dit, défrayé la chronique il y a quelques années maintenant.
On en parle encore.
Jusque tout récemment, oui, bien sûr.
Puisque avant-hier encore, un jugement a été rendu qui constitue en quelque sorte l'épilogue.
Mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi le commissaire Jobbik n'a-t-il pas fait ce livre lui-même? Bon, en dehors du fait que vous êtes écrivain et que vous avez la capacité, je dirais, technique de faire le livre, mais on pouvait penser que le commissaire Jobbik aurait envie de raconter son affaire lui-même. Est-ce qu'il veut considérer que c'est une période révolue?
Non, pas exactement. Je crois que je vous disais tout à l'heure, ça a laissé chez lui des cicatrices tout de même très profondes de son inculpation, son arrestation, sur des choses dont on a du mal à se remettre, même quand on est, comme Jobbik, un homme très solide. Mais pourquoi n'a-t-il pas écrit lui-même? Tout simplement parce que Jobbik est policier, il a une vocation d'homme de police, il veut continuer sa carrière dans la police après ce fâcheux contretemps. Et il est évident que l'administration n'aurait pas toléré qu'il prenne la plume lui-même pour raconter son histoire.
C'est-à-dire qu'il s'est imposé à lui-même un devoir de réserve.
Absolument, de réserve, oui. Et s'il ne se l'était imposé de lui-même, d'ailleurs, on le lui aurait imposé. Le résultat aurait été le même, en fait.
Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer l'affaire Jobbik en quelques mots?
Oui, bien sûr. C'est une affaire qui prend sa source tout bêtement dans une visite que rend Jobbik un jour à un magistrat, un juge d'instruction de Nanterre, qu'il ne connaissait d'ailleurs absolument pas à l'époque, ce qui était bien fâcheux. S'il l'avait connu, peut-être tout ceci ne serait-il pas arrivé. Enfin, il fait sa démarche en toute bonne foi. Jobbik est un jeune commissaire, bon, à qui on a confié une mission sur trois arrondissements de Paris, Cette mission a été clairement exprimée par le préfet de police Fougier de l'époque. Il a choisi quelques garçons jeunes, dynamiques, solides, célibataires. Et il leur a dit, vous faites du terrain et je veux des résultats. C'était l'époque où il y avait une très très forte croissance de la criminalité, de la délinquance de rue. Bon, ces garçons-là ont donc foncé. Bon, on ne fait pas de la police avec une boule de cristal, c'est bien connu, avec du marc de café, on fait de la police dehors en ayant des yeux, des oreilles et en nouant des contacts dans les milieux les plus interlopes des secteurs dont on a la charge. Et bon, on appelle ça comme on veut, des informateurs, des sources, des indiques, des cousins, des tontons, ça porte une infinité de noms, peu importe, l'important c'est qu'on ait des contacts fructueux. Il se trouve que ces gens-là ne sont nécessairement des gens dont la moralité est, disons, au moins discutable.
C'est pas les chaises-guerres.
Absolument, il n'y a pas beaucoup. Je ne connais pas d'exemple, bon, quoi qu'on ait dit à un officier de gendarmerie à la barre du tribunal, où on aille chercher ces indices en matière de banditisme dans les couches saines de la population. Ça me paraît tout à fait aventureux.
Ça pose une question quand même, sur laquelle on reviendra par la suite.
Oui, alors, je vis qu'un de ces contacts, donc disons, est arrêté dans une affaire assez peu importante, d'ailleurs, puisque finalement il est en possession de quelques grammes de hashish. Et Dieu sait que dans ce domaine de la drogue, le hashish, depuis quelques années maintenant, a perdu beaucoup de son intérêt. Il s'est tellement banalisé que la police n'a même plus guère le temps de s'en occuper. On ne s'occupe des drogues dures, on s'occupe de l'héroïne, on s'occupe de la cocaïne. Et pour le hashish, il y a même des circulaires, d'ailleurs, qui disent de laisser courir les gens qui ne sont en possession que de petites quantités destinées à leur usage personnel.
Surtout quand il s'agit de fils de ministre.
Oui, peut-être, oui, plus particulièrement. Jobbik fait donc cette démarche qui est mal accueillie. Il est mal accueilli parce qu'il a la chance de tomber sur un magistrat.
Il fait une démarche pour faire libérer donc son
informateur. Non pas pour le faire libérer, mais en fait, pour qu'on sache qu'il était intervenu en sa faveur, il faut toujours ménager l'avenir avec un informateur. L'arrestation, la détention est pour lui un accident de parcours, ça dure quelques mois, on le récupère après. Et on peut continuer à avoir avec lui des échanges intéressants. Sa démarche vise donc non pas tellement à le faire libérer, si c'était possible bien sûr, mais au moins à ne pas l'enfoncer davantage peut-être, et puis à ce qu'il sache aussi qu'on continue malgré son arrestation à s'intéresser à lui. Démarche qui est mal perçue, mal accueillie. Il se trouve que le magistrat en question est un membre du syndicat, militant du syndicat de la magistrature, qui ne peut pas avoir en odeur de sainteté les commissaires en général, qui sont réputés, Dieu sait pourquoi d'ailleurs, être de droite. Et ils sont nécessairement conservateurs, puisqu'ils sont chargés de l'application de la loi. Alors si ça c'est de droite, admettons-le.
Encore que c'est pas une tare indélébile d'être de droite.
Mais... c'est pas une tare, non. D'ailleurs,
c'est vrai qu'en face,
je suis un homme qui... Enfin, j'ai fait 33 ans de police de manière tout à fait apolitique. J'ai servi 12 ministres, y compris le président de la République actuel d'ailleurs. Et sans me préoccuper de la couleur des bulletins de vote de mes collaborateurs, des magistrats ou de qui que ce soit. Bien, on a perdu, je crois, ce principe de vue depuis une dizaine d'années très largement. Et non seulement on l'a perdu de vue, mais j'ai l'impression que le travail de police commence à être un peu conditionné, précisément, par des appartenances politiques. Et de là naît le conflit. Cette démarche est donc mal interprétée. Jobbik néanmoins réussit à aller voir son correspondant en prison, et un peu plus tard, il le fait extraire de prison dans le cadre d'une autre affaire à la demande d'un autre juge d'instruction. Et à partir de là, le premier, donc le juge Hayat, se forge une conviction et dit « il y a autre chose entre ces deux hommes qu'un banal contact entre un policier et un correspondant. Ils doivent me cacher des choses, ils doivent être complices l'un de l'autre. » Je suis en train de mettre la main sur une grosse affaire. Et à partir de cette conviction, il va se construire un véritable roman extraordinaire, extravagant même bientôt, incohérent aussi. Et au lieu de demander, bon, il y a un service à la police qui s'occupe des enquêtes disciplinaires. Il est sans doute même au départ de bonne foi, ce magistrat. Il aurait pu demander au service spécialisé qui s'appelle l'Inspection Générale des Services d'enquêter sur ce commissaire dont il trouvait la démarche peut-être un peu aventureuse. Non, il n'a pas non plus confiance dans l'Inspection Générale des Services. Il n'a confiance dans aucune des polices hexagonales. Il va s'adresser aux gendarmes. Bon, chacun sait d'une part que le syndicat de la magistrature essaye de faire rentrer sous la tutelle de la chancellerie toute la police judiciaire. Bien. Chacun sait aussi que les gendarmes ont pour ambition d'occuper les grandes villes, ce qu'ils n'ont pas encore réussi à faire. Bon, ils ont la gendarmerie maritime, la gendarmerie de l'air, la sécurité des établissements de défense, des centrales nucléaires, des routes, des campagnes, des petites villes, des villes moyennes. Mais les grandes villes, et en particulier Paris, ils ne réussissaient pas encore à y pénétrer, et leur ambition était d'y aller. Et le juge fait donc appel pour cela à un service qu'il connaît bien, qui est la section de recherche de gendarmerie de Versailles, qui s'enthousiasme tout de suite pour cette mission, très gratifiante en fait. Ils vont enfin, non seulement fouler le pavé parisien, mais en plus s'attaquer à une cible de tout premier ordre, un commissaire de la police judiciaire. Autant dire que si on démontre que ce commissaire est un ripoux, c'est toute l'institution de la police judiciaire parisienne qui va se trouver mise en accusation. Et alors, à partir de là, la fin justifie les moyens. Jobbik est un des policiers les plus efficaces qu'il y ait eu au cours des 3 années écoulées avant cette affaire. Il a mis en prison 1100 malfaiteurs. Il n'y a plus qu'à aller puiser dans la manne, dans les prisons, et demander à tous ces gens-là, qui ne veulent naturellement pas de bien au commissaire Jobbik, à lui demander de l'accuser, moyennant quoi les accusations vont pleuvoir, et leur nombre et leur incohérence, d'ailleurs, auraient dû déjà démontrer que tout ceci était complètement extravagant. Jobbik va se trouver accusé par des personnages complètement fous, mais comme il y a un certain Pedro Villalonga, qui vient d'être condamné d'ailleurs pour dénonciation calomnieuse il y a 3 jours, à l'entendre, Jobbik est vraiment le capot du tutti capi. Il est le chef du racket parisien. Il est proxénète. Il a des filles qui se prostituent partout pour lui. Il partage les produits de la prostitution avec les macros. Il trafique des stupéfiants. Et plus on avance dans le temps, plus les accusations deviennent fantastiques. On le trouve aussi qui finance les services spéciaux algériens. On le voit au volant d'une Porsche rouge avec la maîtresse du présumé meurtrier d'un avocat algérien. Et puis le plus beau pour la fin, d'ailleurs, qui ne sera révélé qu'au moment de l'audience, faute de pouvoir trouver où passer cet argent fantastique que Jobbik naturellement avait gagné, ben on va dire ça sert tout simplement à financer les campagnes électorales pour les caisses noires du RPR.
Ah, voilà. Oui, c'est ça.
Alors on arrive là à une procédure gigantesque qui fait 10 000 feuilles, dont 7000 sont consacrés au seul commissaire.
Mais, pardon de vous couper, ça pose quand même une question, parce que moi je veux bien, l'explication suivant laquelle au début Hayat est un juge militant du syndicat de la magistrature, donc un peu dur, raide à la toile, qui en veut, on peut la recevoir cette explication. Mais c'est quand même un homme intelligent, puisqu'il est juge d'instruction, c'est compris dans le pactage.
Oui, je pense.
Il y a un moment où il doit se dire, mais on est en train de m'emmener en bateau, on est en train de se foutre de moi dans cette histoire. Quand il arrive à 7000 pages de procédure qui accuse Jobbik pratiquement d'avoir peint le Saint-Suaire, on peut s'en foutre, enfin, c'est pratiquement la seule accusation qu'on a prononcée contre lui. Il y a un moment où un juge normalement constitué se dit, ils sont en train, comme on dit dans le milieu, de charger la mule. Pourquoi il réagit pas comme ça? Parce que il y a une espèce de... Immédiatement, il y a une politisation de l'affaire. Et
oui,
il est en quelque sorte poussé par...
Cette affaire a été hyper médiatisée dès le début. Dès le début, parce que c'est très juteux au point de vue médiatique. Un commissaire arrêté, un commissaire inculpé. Les médias s'enthousiasment pour cela. Ils consacrent des colonnes, des pages, etc. Du reste, je constate, et j'en profite pour le dire aussi, que lorsqu'il est relaxé, lorsqu'il est dédommagé un an après par la Cour de cassation pour le dysfonctionnement de la justice dont il a été victime et pour le préjudice moral qu'il a subi, ça ne fait plus que 4 ou 5 lignes quelque part dans un bas de page.
Oui,
ça n'intéresse absolument plus les médias de savoir que cet homme-là était parfaitement
innocent.
Mais
c'est les trains qui arrivent à l'heure ne font pas l'objet d'articles dans la presse, et les commissaires honnêtes non plus, parce que un policier honnête, c'est quand même naturel.
Alors, je pense qu'il y a d'une part cette médiatisation fantastique, et il y a d'autre part le fait qu'on est allé à un moment trop loin. Le juge a littéralement lancé dans une opération une logique de guerre, pour employer un terme à la mode maintenant, tout ce service de la section de recherche de Versailles. Ils ont accumulé tellement d'éléments qu'on ne peut plus se désavouer. On ne peut plus dire nous nous sommes trompés de façon magistrale, nous avons été stupides ou nous avons été de mauvaise foi, parce qu'il faudrait aller jusque-là dans les aveux. On ne peut plus, c'est la fuite en avant, et il faut absolument continuer et en trouver encore davantage.
Alors, vous évoquiez à l'instant la médiatisation, parce que la vérité, c'est que cette affaire Jobbik n'existe que parce que la presse en parle. Autrement, un magistrat rame pour essayer de faire porter un énorme chapeau à un poulet, ça marche pas, mais je veux dire, jusqu'au moment de la condamnation, normalement, le secret d'instruction couvrant l'affaire, il doit pas y avoir un article dans la presse. Et par conséquent, Jobbik en sort blanc comme neige. C'est-à-dire qu'une fois qu'il n'y a pas de condamnation, l'affaire tombe. Alors, qui a informé la presse au départ de cette affaire ?
Qui a informé la presse ? Je ne mettrai pas de nom sur celui qui a informé la presse, mais enfin, je constate dans cette procédure qu'on trouve des copies de procès-verbaux dans certains hebdomadaires. Mmh. On a simplement caviardé la date.
Pardon de vous couper, mais... qui a le pouvoir d'informer la presse ? Il y a ceux qui disposent du dossier, c'est-à-dire le magistrat instructeur, son greffier. Mmh.
Les enquêteurs.
Les enquêteurs, et encore, ils n'ont pas le dossier intégral.
Ce sont eux qui alimentent le dossier de l'instruction. Il n'y a rien dans le dossier de l'instruction qui ne soit connu, en fait, des policiers enquêteurs, c'est-à-dire des gendarmes.
Mais ils ne centralisent pas, eux. Le dossier.
Ah, si, quand même. Si, bien sûr.
Bon, ils n'ont pas... ça fait quand même beaucoup de monde.
Ça fait beaucoup de monde. Enfin, on trouve essentiellement tout de même des pièces de l'instruction qui sont reproduites dans la presse.
Alors,
on tirer quand même des conclusions.
Sur le plan humain, il se passe quoi pour Jobbik pendant cette période ?
Sur le plan humain, c'est un garçon, je vous dis, qui est extrêmement solide, heureusement. Mais il est très, très ennuyé. Bon, il faut rendre cette justice au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice de l'époque, qui étaient respectivement donc Messieurs Jox et Arpaillange, qui ne devaient pas accorder un grand crédit à la procédure de Monsieur Hayat, puisque Monsieur Jox n'a pas suspendu Jobbik de ses fonctions, et que Monsieur Arpaillange ne lui a même pas retiré sa qualité d'officier de police judiciaire. C'est-à-dire qu'on s'est trouvé à un moment dans cette situation tout à fait étonnante d'un commissaire en prison, à la prison de Bois d'Arcy, qui était dans le plein exercice de ses fonctions. Il aurait pu éventuellement exercer son métier à l'intérieur de la prison. Ce n'était pas possible puisqu'il était dans une cellule à l'isolement. Mais enfin, vous voyez, c'est une situation complètement...
Il est resté combien de temps ?
Abracadabrante de 16 jours. Et non seulement les deux ministres donc concernés ne croient pas manifestement au contenu de ce dossier, mais plus tard, le parquet, cette procédure sera enfin terminée, quand ce soufflet au fromage atteindra son maximum... Et que le parquet se verra dans l'obligation de prendre une décision, à savoir, suivons-nous les conclusions du juge et envoyons-nous le commissaire devant un tribunal, ou alors reconnaissons tout de suite que tout ça ne vaut pas un copec et abandonnons les poursuites. Alors là aussi, on va assister à quelque chose de tout à fait étonnant. Le parquet de Nanterre va se voir obligé de soumettre deux propositions de réquisition. L'une relaxant tout de suite Jobbik de toute poursuite, enfin abandonnant les poursuites, et l'autre demandant à ce qu'il soit poursuivi. Et la chancellerie, probablement pour ne pas lâcher totalement le juge d'instruction, va retenir en fait, en partie tout au moins, les réquisitions demandant des poursuites, et c'est pourquoi on aura un procès. Et pour ma part, je crois que c'est mieux ainsi, parce qu'on a eu là affaire à un tribunal d'une grande sagesse et d'une extrême clairvoyance, présidé par un magistrat que je trouve remarquable, qui s'est payé en un mois l'étude approfondie, l'analyse de ce dossier monstrueux, qui l'a parfaitement démonté pour en retenir qu'il ne contenait rien.
Alors, c'était un procès d'assises ou
non,
de correctionnel ?
Correctionnel.
Et le ministère public avait pris quelle réquisition ?
Eh bien, verbalement, vous savez, dans le domaine de la justice, il y a les réquisitions écrites.
Et puis le réquisitoire.
Et le réquisitoire verbal qui, lui, est libre. Mm-hmm. Et le substitut Renaud qui prononçait ce réquisitoire avait déjà abandonné l'accusation de corruption et il s'en rapportait à la sagesse du tribunal pour ce qui était du reste. Bon, c'était plus un réquisitoire, c'était presque une plaidoirie. Une pré-plaidoirie. C'est ainsi d'ailleurs que les avocats de Jobbik l'ont considéré et que le tribunal l'a considéré aussi.
Alors, bon, l'histoire de Jobbik, elle est tout à fait passionnante. Elle est vraiment passionnante parce que on voit l'imbrication de la politicaille dans cette affaire, etc.
Oui, tout à fait.
Mais là, on va faire une petite interruption pour des raisons techniques. Et après cette interruption, commissaire Le Taillantère, je vous demanderai pourquoi vous vous êtes intéressé à cette affaire et comment elle se place dans le regard que vous jetez aujourd'hui sur la police avec 33 ans d'expérience derrière vous.
Thank you. colonel était dans la finance. Le commandant était dans l'industrie. Le capitaine était dans l'assurance. Et le lieutenant était dans l'épicerie. Le juteux était huissier de la Banque de France. Le sergent était boulanger-pâtissier. Le caporal était dans l'ignorance. Et le deuxième classe était rentier. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch, assisté de Victoria. Émission du 6 février 1991, rediffusée dimanche 6 septembre 2015 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Alors, deuxième partie de cette émission, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous parlerons de Robert Brasillach, 46 ans après son assassinat. Nous en parlerons avec Anne Brassier, bonsoir Anne, bonsoir. Avec Pascal Louvrier, bonsoir.
Bonsoir.
Et avec François Brignot.
Bonsoir.
Bonsoir François. Mais nous terminons l'entretien que nous avons commencé dans la première partie de l'émission avec le commissaire Le Taillanter, auteur du livre « Commissaire Jobbik » aux éditions Bernard de Fallois. Et j'ai dit, avant de terminer la première partie, qu'il fallait lire ce livre parce qu'il était plus qu'exemplaire de la situation actuelle, cette espèce de mélange entre la politique et l'ordre public, et puis de cette espèce d'incompréhension entre la magistrature et les forces de l'ordre, et puis de cette rivalité qui est folle quand on pense à ses conséquences entre la gendarmerie et la police. Et je voudrais vous demander, commissaire Le Taillanter, après, vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez 33 ans de police.
Oui.
33 ans de police, ça fait quand même...
Un tiers de siècle.
Un tiers de siècle, ça fait quand même du bruit. Alors, au fond, est-ce que l'affaire Jobbik aurait été possible, à votre avis, au début de votre carrière? Et sinon, qu'est-ce qui a changé à ce point-là?
Ce qui a changé, je crois, c'est la mentalité d'un certain nombre de magistrats. Si j'ai pris cette affaire à cœur, moi, dès le début, pratiquement, c'est parce qu'ayant été pendant 4 ans le patron de la brigade mondaine, j'avais été aussi l'objet d'accusations, de suspicions diverses, multiples, touchant à tous les domaines, le racket, le proxénétisme, l'homosexualité, les maisons de partout, enfin, c'est-à-dire tous les phénomènes dont j'avais en fait le contrôle, si vous voulez. Bon. On m'avait dit, d'ailleurs, quand j'avais été affecté à ce poste, c'était la rançon de ce poste et que de toute façon, ça arriverait. Mais à l'époque, j'ai eu affaire à des magistrats qui faisaient rapidement litière de ces accusations. Et en plus, j'avais eu la chance, à plusieurs reprises, d'arrêter les personnages qui répandaient ces rumeurs et qui avaient de bonnes raisons de les répandre, d'ailleurs, parce qu'effectivement, eux raquettaient, eux prenaient de l'argent en disant « c'est pour Le Taillanter ». Ce qui me faisait porter des sombreros. Et je vous dis pas, c'était tout à fait angoissant comme situation. Mais je n'ai jamais connu les angoisses qu'a pu traverser Jobbik, parce que à chaque fois, bon, les magistrats de l'époque, qui devraient être les mêmes maintenant, bon, enfin la génération suivante, comprenaient et admettaient très rapidement, bon, que tout ça était complètement extravagant. Alors, il n'en demeure pas moins que je ne cherche pas par là à prétendre qu'il n'y a jamais eu de ripoux dans la police. Bien sûr qu'il y en a. Il y a un service qui est spécialement chargé de les rechercher, de les débusquer, c'est l'inspection générale des services. Mais disons qu'un ripoux dans la police, ça frappe les esprits, l'imagination, parce que un policier est un personnage doté d'une parcelle d'autorité. Mais quand on examine les statistiques, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup moins, en fait, dans la police que dans la plupart des autres institutions publiques. C'est heureux, d'ailleurs.
Un haut fonctionnaire me disait un jour que l'état de corruption de la haute fonction publique aurait fait apparaître la cour du grand chat comme un modèle de vertu républicaine. Alors, la cour du grand perse comme un modèle de vertu républicaine. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut penser de cette déclaration, mais il suffit de regarder les récentes affaires politico-judiciaires pour voir que,
absolument,
en tout cas, la haute fonction publique et la haute fonction politicienne sont pas beaucoup plus à l'abri de la corruption que certaines autres professions.
Absolument. Mais ils ont les moyens, eux, d'empêcher les poursuites, de les arrêter en temps utile.
Voilà, c'est ça. Ce que la police ne peut pas encore faire pour son service propre.
Ne peut pas.
Il y a une chose quand même qui m'intrigue, c'est de savoir... Vous nous avez expliqué pourquoi vous vous êtes penché sur l'affaire Jobbik. C'est parce qu'en fait, vous avez failli vous-même être
C'est une des raisons. C'est pas la seule. Il y en a une autre aussi, parce que j'ai le sentiment, bon, en parlant avec des gens qui n'ont suivi ça que de très loin à travers la presse, j'ai le sentiment que beaucoup dans l'opinion publique se disent encore « Ouais, ouais, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Bon. » Jobbik a beau avoir été relaxé, indemnisé de manière exceptionnelle par la Cour de cassation, je vous ai dit, pour le dysfonctionnement de la justice et le préjudice qu'il a subi. Ses accusateurs commencent à être...
Indemnisé. Il a reçu de l'argent.
150 000 francs, 15 millions.
C'est le juge Ayat qui a payé, bien sûr.
Ah, vous plaisantez. Sinon, c'est le Trésor qui va payer. Le juge Ayat lui a été nommé vice-président à Versailles.
Ah, d'accord. Ça, c'est bien. Donc, le juge Ayat...
Et Jobbik qui a été nommé dans un placard à la direction de la police
judiciaire. Le juge Ayat qui a fait passer 16 jours de prison à un commissaire irréprochable, qui, pendant 3 ans, lui a mangé la tête, comme on dit maintenant, a détruit son existence... Et dont les exploits ont coûté, sans intégrer d'ailleurs les honoraires ou les salaires qu'il avait touchés, les salaires de son greffier, les dépenses phénoménales engagées par la gendarmerie
qui part en hélicoptère perquisitionné chez la mère du commissaire. En fait, c'était la guerre.
Donc c'est un dossier qui a coûté plusieurs millions de francs actuels, certainement.
Absolument, oui.
Sans compter les 150 000 francs que la justice, dans son immense mansuétude, a fini par accorder à titre de dédommagement à Jobbik. Lui, le juge Ayat, il est promu.
Oui, c'est une promotion, oui, mais vice-président, c'est tout de même supérieur.
C'est un bon truc, ça. Je sais pas ce que François en pense, mais moi j'aimerais bien, imaginez dans la presse, un journaliste qui pendant 3 ans n'écrit que des conneries, fait avoir pour des millions de procès à son journal, et il se retrouve nommé directeur de la rédaction, au mérite en quelque sorte. Je ne sais pas si les journaux marcheraient longtemps comme ça. Les journaux, je peux vous dire, ne marcheraient pas longtemps. Et alors, quand on voit ce qui se passe, on est beaucoup moins étonné de voir comment fonctionne la justice. Parce que si, effectivement, il suffit de faire ce que fait le juge Ayat pour être promu, la haute hiérarchie de la justice en France, elle doit être peuplée de gens particulièrement efficaces.
Oui, je reconnais bien là la causticité de votre esprit. Heureusement, quand même, la justice n'en est pas encore là. Mais enfin, il y a des exemples comme ça qui sont quand même assez fâcheux. Et le juge Ayat, d'ailleurs, à force de s'obstiner d'une manière presque obsessionnelle sur ce dossier, en était arrivé à négliger quelques autres affaires graves, dont une, il l'a tellement négligée que ça aboutit d'ailleurs à la libération de 5 trafiquants de stupéfiants de haut vol, qui se sont trouvés comme par hasard libérés alors qu'ils allaient chercher...
Qu'il avait oublié de signer...
Il avait oublié de renouveler les mandats, etc. Oui.
Eh bien, alors, retenez le nom du juge Ayat, qui est quand même un des fleurons de la magistrature française.
Vous savez qu'il y en a d'autres, d'ailleurs.
Oh là, il y en a d'autres. Mais il faut faire savoir à nos auditeurs qui pourraient avoir un jour la malchance de comparaître devant un tribunal quel qu'il soit, qu'il existe une procédure extrêmement rare que les avocats n'aiment pas du tout, mais qu'il faut imposer aux avocats, parce qu'elle est très rigolote, qui s'appelle la procédure de récusation. C'est-à-dire, quand on vous amène devant un magistrat, vous dites, lui, j'en veux pas, parce que je le soupçonne d'être mal disposé à mon endroit, donc je veux qu'on change de magistrat pour me juger. Alors, naturellement, il ne faut faire ça que quand on est noir comme le cirage, parce que, étant donné la solidarité des chats fourrés, quand le deuxième magistrat arrive en remplacement du premier, il vous trinque à peu près 2 fois plus. Donc, il faut être sûr d'aller en taule pour 10 ans, parce que, à partir de 10 ans, quand on en prend 20, la différence, à partir de 1,
elle est pas très grande.
La différence,
elle est pas grande.
C'est, Voilà, quand on aime, on a toujours 20 ans.
Justement, a écrit un poème là-dessus qui s'appelle Le jugement des juges.
C'est vrai.
Eh bien, la liaison est faite avec la dernière partie de l'émission. Commissaire Le Taillantaire, merci d'être venu nous voir. Je rappelle le titre de votre livre, Commissaire Jobbik, aux éditions Bernard de Fallois, que je salue d'ailleurs, qui est un grand éditeur,
oui.
Courageux, comme les bons éditeurs le sont. C'est pas du tout un marchand de soupe. Et je recommande la lecture de votre livre, ne serait-ce que pour voir que certaines aventures qu'on a vues se dérouler dans les pays de l'Est ou dans les dictatures fascistes, je pense à Z, je pense à l'aveu, je pense à des choses comme ça, ça existe en France. C'est-à-dire qu'on peut prendre un homme et par un caprice politique, le broyer,
le
détruire pendant 3 ans. Parce que quoi qu'on en pense, même s'il a été relaxé et indemnisé, le commissaire Jobbik est un homme qui, à l'intérieur, doit avoir une blessure qui ne se refermera jamais.
Bien sûr.
Merci, commissaire Le Taillantaire.
Merci à vous.
Alors, je vous propose, François Brignot, Anne Brassier et Pascal Louvrier, de parler pendant tout le temps qu'on voudra jusqu'à l'extinction des feux qui intervient à 21h, à 20h55, de Robert Brasillach, qui est mort il y a aujourd'hui exactement 46 ans, le 6 février 1945, sous les balles d'un peloton commandé par le général de Gaulle, de loin, mais commandé quand même, qui est mort 11 ans après le 6 février 1934, comme une espèce d'expiation supplémentaire de ce 6 février 1934, pour des raisons probablement parallèles. Je vous propose, avant d'en parler, d'entendre un document que Paul Robert nous a apporté, et qui est la voix de Robert Brasillach. Alors Paul, tu peux peut-être nous dire en 2 mots ce que c'est que ce document.
Oui, je ne vois pas que les gens soient trop déçus parce que le document est très très court. Il s'agissait probablement d'un enregistrement sur disque de radio. Et ces disques étaient très fragiles et on a pu en récupérer 10 secondes de la voix de Robert Brasillach. C'est une interview qui est faite à son retour, je crois, de Quétine. Qui doit, je crois, se situer dans 43, en avril 43.
Oui, c'est ça.
Parce qu'il est encore rédacteur en chef de Je suis partout. Et évidemment, c'est très court, mais il ne faut pas nous en vouloir. Il y a très peu de documents sur Robert Brasillach.
On va en tout cas entendre sa voix. Une voix est souvent une façon d'avoir un portrait de quelqu'un.
Mes chers auditeurs, j'ai à côté de moi Robert Brasillach, rédacteur en chef de Je suis partout. Et je vais lui demander ce qu'il pense, ce qu'il vient de voir, de l'horreur du charnier de Quétine.
Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit avant moi bien son excellence l'ambassadeur de Brinon. Il faudrait que les incrédules viennent voir.
Voilà, malheureusement.
Il faudrait que les incrédules viennent voir. Alors, on a cette voix qui est frappante, qui est une voix d'intellectuel, si j'ose dire. Hein. Ça, je sais pas ce que. Alors, François, qui a entendu cette voix pendant longtemps et souvent, va pouvoir nous en parler.
Je ne la reconnais pas, là.
Non?
Non. On dit une voix, tu viens de dire une voix d'intellectuel, c'est vrai qu'il avait une voix réfléchie, une voix, mais il était tellement naturel dans toutes ses démarches que quand il parlait, il avait la voix de la simplicité et du naturel. Et par conséquent, moi je trouve toujours quand on dit intellectuel, il y a une fabrication. Chez lui, il n'y avait pas de fabrication.
Moi je reconnais la voix de la famille. Je reconnais, Vous ne
les trouvez pas qu'il y a les voix de chez nous.
Les voix de la famille Bardèche et les voix de la famille et des fils. Je sens une... Et en tout cas, je suis très émue et je remercie infiniment parce que c'est...
J'aurais voulu faire mieux, mais
c'était
malheureusement...
C'était assez extraordinaire d'entendre cette voix pour nous. Et...
Ce qui était étonnant d'ailleurs, c'est une parenthèse, c'est qu'il existe, il n'existe pas de document sonore plus important.
Si, il doit en exister, je pense, en cherchant bien à l'INA, parce que bon, le problème c'est que ces disques de radio étaient très périssables, en plus la matière manquant, ils étaient très vite reconvertis, il y avait de l'aluminium donc on le récupérait, il n'y avait pas encore d'enregistrement. Alors il y a peut-être eu en Allemagne des enregistrements sur bande magnétique, mais a priori je peux m'enseigner mais je ne les connais pas.
Alors, c'est une façon intéressante d'ouvrir cet entretien, parce qu'il revient de Katyn à ce moment-là, et c'est l'époque où Je suis partout révèle l'existence du charnier de Katyn, et révèle ce que la conscience humaine, la conscience universelle, ne va admettre que 50 ans plus tard, c'est-à-dire le fait que Katyn est un massacre perpétré par les soviétiques qui ont liquidé 10 000 officiers polonais dans la forêt de Katyn pour tout simplement perpétrer un génocide des élites intellectuelles et morales d'un pays qu'ils voulaient envahir et qu'ils voulaient asservir. Donc ce qui me frappe, c'est que le seul document sonore que l'on ait de Brasillac aujourd'hui, disponible pour l'instant, c'est un document de vérité. Et de vérité qui va être niée pendant 50 ans, puisque l'Union soviétique n'a reconnu que l'année dernière, en 90, que Katyn, c'était son œuvre, après avoir tenté pendant 50 ans d'accréditer le mensonge suivant lequel c'était un crime perpétré par les nazis. Anne Brassier.
Ce qu'il y a d'étonnant, c'est le double langage, le langage officiel et le langage dans l'intimité, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours su, on m'a pas beaucoup parlé de Katyn dans ma vie, mais je savais, avant la reconnaissance, que après la guerre, on le disait. C'est étonnant de voir qu'il y a toujours le langage officiel, la reconnaissance officielle, et puis les connaissances à la base.
Ce qu'il y a aussi de frappant, d'émouvant ce soir, parce que nous sommes le 6 février, ce qu'il y a d'émouvant, c'est que c'est ce document qu'on a trouvé. Il y a là comme un signe du destin, parce que si Brasillac n'a pas été gracié, la légende, en tout cas la rumeur, dit que c'est à cause de la photographie faite après Katyn, où on le voit avec un certain nombre d'intellectuels, de journalistes français, mais aussi en compagnie de Doriot. Et Jacques Doriot, qui s'est engagé, lui, sur le front de l'Est, parce que il pensait que c'était les armes qui allaient faire la décision politique et qu'il ne servait à rien de parler politique tant que les armes n'avaient pas parlé. Jacques Doriot était en uniforme allemand et on a souvent dit que De Gaulle avait confondu Doriot et Brasillac sur cette photo qui avait été glissée dans le dossier, il faut le dire, parce que ça c'est la vérité, par Monsieur Pierre Bloch. Et que c'est sur cette photo-là, cette photo qui avait fait la couverture du droit de vivre dans la semaine, dans la quinzaine qui a séparé le jugement de l'exécution, c'est cette photo-là où Brasillac aurait été confondu avec Doriot, et c'est parce que De Gaulle avait pensé à un moment donné que c'était Brasillac qui était en uniforme allemand qui aurait provoqué le refus de la grâce. Cela n'est pas absolument prouvé, ça a été souvent émis, et en tout cas Izorni hésitait mais pensait que ça pouvait avoir eu que ça pouvait jouer un rôle. Et il est étonnant ce soir pour l'anniversaire, ce jour du 6 février qui reste important, parce que tout ça est plein de signes, c'est plein de symboles, ça n'est pas par hasard, c'est pas par coïncidence qu'on a tué le matin le 6 février 1945 Brasillac, 11 ans après le 6 février 34. Il y a là un écho, il y a là des passerelles de l'histoire, comme on en trouve toujours. C'est assez curieux qu'on ait trouvé que ce témoignage de Katyn, alors que nous parlons de ce soir, le 6 février 1991, pour nous rappeler peut-être à la fois des deux autres, enfin 6 février, celui de 1945 et celui de 1934.
Alors François, je vais vous donner la parole, je vais vous laisser la parole, parce que vous n'êtes pas seul, mais vous êtes le seul qui ait rencontré et connu Brasillac et qui était son ami. Anne et Pascal Louvrier l'ont connu à travers l'enquête qu'ils ont fait pour leur livre, à travers les recherches, à travers les contacts qu'ils ont pu prendre avec différentes personnes qu'ils avaient rencontrées, mais c'est une connaissance à travers des intermédiaires, tandis que vous l'avez fréquenté, suivi, connu, aimé, et j'aimerais bien que vous nous en parliez avant tout, que vous nous disiez comment était cet homme, quand vous l'avez connu, d'ailleurs, à quelle date l'avez-vous connu précisément?
Je l'ai connu en 1943. Quand il a rompu avec son équipe de copains de Je suis partout, je lui ai écrit une lettre, je crois que c'est fin septembre, début octobre 1943, pour lui dire qu'il avait raison. Ma position politique à ce moment-là était la suivante, et c'est que la collaboration pouvait se comprendre dans la mesure où l'Allemagne semblait avoir gagné la guerre, dans la mesure où l'Allemagne semblait l'avoir perdue, la politique de collaboration ne se comprenait pas, ne se comprenait plus. Et je lui ai écrit en lui disant, vous avez raison, c'est très courageux, parce que le courage, c'est souvent de faire front à ses amis plutôt qu'à ses adversaires. Il faut plus de courage. Je lui ai écrit ça, et j'avais à l'époque 24 ans, et il en avait donc 10 de plus que moi. Et par une coïncidence, j'habitais 100 rue Mouffetard, et il habitait 5 rue Rateau, c'est-à-dire à 100 mètres de chez moi. En plus, j'étais dans une famille qui avait un commerce, et on pouvait aider beaucoup de gens, parce que à ce moment-là, le commerce, on pouvait faire du troc, et on pouvait trouver du beurre, des œufs, du poulet, grâce à ce commerce. Donc, je lui ai écrit, il est venu, je l'ai aidé sur ce plan matériel un petit peu, comme je faisais du vélo, qu'il en faisait aussi, il allait à Sens à vélo, il revenait, je me suis occupé un peu de son vélo, etc. Et puis, quand on dit ami, c'est beaucoup d'honneur me faire, c'est vrai qu'il m'a... dans le testament, il parle de moi, il fait C'est une période où les jeunes gens ont beaucoup de respect. Il n'est pas un maître. Il a 34 ans, mais c'est quand même un maître. C'est un homme pour lequel j'aurais pu mourir. C'est un ami, c'est vrai. C'est un camarade. On se tutoie, mais en même temps, il y a une immense séparation. Moi, j'apprends beaucoup de choses. C'est lui qui me fait écrire.
Parce que lui, il est normalien.
Il est normalien.
Et vous êtes à l'époque...
Moi, je suis rien du tout. Moi, je suis ouvrier.
Un gamin ouvrier. Enfin, jeune ouvrier.
Oui, je travaille dans un chantier. Je suis rien. J'ai envie d'écrire. J'écris des choses. J'ai toujours eu envie. Mais enfin, je suis rien du tout. Et il s'intéresse à moi parce que... Je sais pas pourquoi, par amitié, je suis marié, j'ai mon épouse qui habite là avec moi, il aime bien ma façon de raconter les choses, j'ai un langage un petit peu parlé, comme ça je fais des choses. D'ailleurs, il va me pousser à écrire, et j'écrirai chez Combelle, grâce à lui, des nouvelles en langue parlée, moi mésique de la mouffe, où je raconte en argot, moitié en langue, comme ça. Mais il est lui d'une simplicité extraordinaire. Il vient casser la croûte à la maison. Il vient avec dans cet hiver 43-44. Il vient et on parle politique, on parle littérature. Moi, je lui parle plus politique d'ailleurs, ce qui est assez curieux. Et puis je l'écoute. Je l'écoute, et il vient là avec sa grosse canadienne, ses grosses lunettes, avec ses yeux qui rient, qui brasillent, et brasillac, il a un regard comme ça qui brasille. Il est gentil, il est attentif, il est amical, il sait plein de choses, et il comprend beaucoup de choses, il aime bien ce peuple. On va boire des coups là au bistrot, alors moi je lui raconte des tas de trucs, et il rit, c'est son rire. Il vient, quand il vient casser la croûte à la maison, il apporte une bouteille de Bourgueil dans la poche là de sa canadienne, il regarde, et nous avons un petit logement ouvrier, tout à fait, et il est familier, et quelque chose se passe, parce que c'est l'hiver où va se déchirer toutes les illusions, s'il tentait qu'il y en ait encore. Et comme il est un peu pourchassé, il est accusé par Je suis partout. Il est accusé de, ils font des choses contre lui. Nous ne sommes pas des dégonflés. Et il va pour se défendre, pour se justifier presque. Il va écrire les articles peut-être les plus terribles contre lui dans le journal Le De Combelle, Révolution nationale. Et c'est là où il aura cette fameuse phrase « Nous avons tous couché avec l'Allemagne et son souvenir nous aura été doux », quelque chose comme ça. Je trouve, moi, complètement stupide, parce que s'il a décidé politiquement de rompre parce que cette politique-là n'est plus possible, on peut pas continuer à la défendre.
Alors François, si vous voulez, on va revenir sur cet aspect politique. Pour l'instant, vous nous avez fait un portrait qu'on a jamais vu nulle part de Brasillac, c'est-à-dire le portrait d'un ami.
Il est de bon goût de dire proche. Que c'est un homme haineux alors que c'est l'inverse.
Et c'est un portrait complètement passionnant.
C'est l'inverse.
J'aimerais bien avoir l'autre, peut-être que Pascal Louvrier pourrait nous donner une autre facette, pas l'autre, mais une autre facette du personnage, c'est-à-dire c'est le normalien, l'helléniste, l'intellectuel, pour reprendre ce mot, l'intellectuel.
Oui, mais je ne crois pas que ça soit tellement un intellectuel au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui est un petit peu cramoisi comme ça. Non, en ce qui me concerne, moi je crois que Brasillac c'est avant tout quelqu'un qui a été trompé par son siècle, parce que c'était quelqu'un qui au départ avait beaucoup de dons littéraires.
À qui pourrait-on le comparer, par exemple?
Oh, les comparaisons, alors là, vous
les
savez...
Les comparaisons ne sont pas des raisons, mais...
Non, c'est toujours très, très délicat. Je crois que Brasillac, dans la littérature française, du XXe siècle, occupe une place à part.
En tout cas, il occupe bien une place dans le Larousse.
Oui, mais ça, il y en a d'autres.
Bien sûr, mais enfin, il y en a d'autres. C'est quand même intéressant de savoir.
Oui.
Il faut toujours noter ce genre de...
Tout à fait. Ou dans les livres de littérature pour étudiants ou pour lycéens. Je crois qu'il y a une filiation. On pourrait essayer de le rapprocher d'un auteur qui, par certains côtés, d'ailleurs, on retrouve certains thèmes. Je crois que c'est Alain Fournier. Moi, je suis assez d'accord pour le rapprocher d'Alain Fournier. Il y a beaucoup de nostalgie, il y a un amour éperdu de la jeunesse, et puis il y a aussi le souci du temps qui passe. Et bon, il y en a qui acceptent que le temps passe, ils se font une raison, et ils arrivent même à parler de livres comme La Montée du Soir. Je pensais à Michel Déon notamment, qui lui aussi... on trouve des points communs en ce qui concerne la littérature, mais lui, il refuse, je crois, de voir le temps qui passe, et il ne veut pas aller plus loin, quoi.
Est-ce que dans son œuvre il y a une prescience de son destin? Est-ce qu'on voit toujours ça a posteriori, mais est-ce qu'on le sent?
Oui, parce que son premier livre, c'est Présence de Virgile. Et je crois que il l'a écrit, il avait une vingtaine d'années à peu près, et tout est dit. Tout est dit. Et effectivement, il annonce que Virgile, c'est quelqu'un qui, au bout d'un moment, est obligé de sacrifier son talent pour le mettre au service de la patrie. Et c'est ce qui va arriver en ce qui concerne Brasillac. À un moment donné, on ne peut plus continuer à faire simplement des romans, je dirais à rêver au sens noble du terme. Il faut s'engager dans un combat politique. Et c'est là où le siècle est extrêmement cruel. C'est que Brasillac, lui aussi, est happé par les idéologies du XXe siècle. Alors il y a d'un côté le fascisme, puis de l'autre côté, il y a le communisme.
Et c'est pour ça que revenir à cet aspect, parce que
il y a aussi une chose qui montre bien qu'il a conscience de ce qui va arriver. C'est l'immense travail qu'il va effectuer en 20 ans, entre 15 et 35 ans. Il laisse une œuvre considérable. Quand vous voyez ce qu'il a écrit, la qualité de ce qu'il a écrit, il y a bien sûr des choses qui sont pas aussi bonnes que d'autres, mais la majorité de ce qu'il a écrit est d'une grande qualité. Et
si j'ose dire, la quantité est frappante.
12 tomes, oui. J'ai l'habitude de dire.
Quand on le voyait travailler, etc., il y a là quelque chose qui ne lui appartenait plus. Et je l'ai vu à Fresnes par l'œilleton quand j'allais l'appeler quelquefois, enfin dans sa cellule. Il se levait, mettons, autour de 7h, 8h avec le lever de, et il commençait à écrire, il devait écrire 6 ou 7 heures, et quand on allait chez lui, il était très avant, quand bien sûr, il était très rare qu'on ne le trouve pas en train d'écrire. Mais ce qui était extraordinaire, quand on sait comme c'est difficile d'écrire pour nous qui sommes pas quand même très très doués, hein, et lui, il participait à la vie autour, il disait son mot, il parlait à sa sœur, à Suzanne, il disait tu devrais faire ceci, il disait à Maurice Bardèche cela, à moi, il disait alors well, comment t'as fait, etc. Il était là, et en même temps il écrivait. Il y avait c'était un homme écrivant. Puisqu'un homme écrivait. Il écrivait et il avait, c'est comme, alors qu'il ne, il ne donnait jamais l'impression d'être un grave, d'avoir une tragédie en lui. Il avait horreur des pesants, il avait horreur des gens qui se prenaient pour quelque chose. Tout se passe quand même comme si il avait, au fond de lui-même, la prescience qui ne tarderait pas à mourir.
Alors la préscience, je ne sais pas si c'est ça qui lui a dicté aux morts de février, mais c'est un des poèmes de Fresnes.
Oui, c'est un petit poème très court, et je crois qu'il rejoint ce que disait François au début, c'est-à-dire qu'il y a un raccourci de l'histoire entre le 6 février 34 et le 6 février 45.
C'est un poème, c'est pas un poème. Il commence le 1er février à l'écrire et il l'arrête, c'est 4 vers.
Voilà, c'est 4 vers.
Alors, on va donc écouter ces 4 vers qui sont dits par qui ?
Pierre Fresnet.
Mort de février. Les derniers coups de feu continuent de briller dans le jour indistinct où sont tombés les nôtres. Sur 11 ans de retard, serais-je donc des vôtres? Je pense à vous ce soir, aux morts de février.
Ouais, c'est superbe. C'est très très beau.
C'est le 1er février, il écrit ça le 1er février, je crois.
Et cinq jours plus tard.
Je me souviens pas, bien sûr, du moment où il a écrit, mais je me souviens de ces jours. J'étais au 3e étage de la prison de Fresnes, et il était au rez-de-chaussée dans une petite cellule. Et toute la prison était en attente parce que le 6 février, c'était une date pour nous, militants politiques, miliciens, gens du RNP, du PPF, Action Française, tous les gens qui se trouvaient mêlés là-dedans, dans ce combat, le 6 février, on disait, ils vont pas tuer Robert, le 6 février. Et on était en attente jusque-là, et 3-4 jours, parce que s'il passait 15 jours, c'était bon. Et puis...
C'est d'autant plus étonnant que le 6 février, c'est la raison de l'engagement politique de Brasillac. Ah. Le premier article politique de Brasillac, c'est après le 6 février.
Oui. Alors qu'il n'est pas militant,
non.
Puisqu'il est le soir du 6 février, il est dans une générale à Marigny ou je ne sais où, non pas à Marigny, mais pas loin.
Au Théâtre des Champs-Élysées.
Au Théâtre des Champs-Élysées, et il voit flamber.
Et ça vous plaira Serge, parce que ce premier article, moi, m'a toujours beaucoup amusé. Il est toujours d'une actualité étonnante. Il s'appelle « Lettre au cocu de la droite ».
depuis le temps.
On je suis désolée, là, je...
On devrait être blindés.
Et je ne résiste pas au plaisir de vous le lire. C'est donc après l'affaire Bloom, à l'enterrement de... Bainville, il y a eu un gros scandale. Ça. Il y a eu un gros scandale et oui, c'est 38. Mais c'est tout à fait non, c'est le 13 février 36 que le Léon Blum est molesté et il fait cet article dans lequel il dit le grand scandale de ce qu'il faut bien appeler l'affaire Blum, ce n'est pas l'écorchure du socialiste, ce n'est pas la dissolution des ligues, ce n'est pas le cortège expiatoire du Front populaire, le vrai scandale c'est l'attitude des députés de la droite.
C'est très étonnant parce qu'en fait, on voit très bien, on imagine très bien que si, dans un contexte semblable, il se reproduisait aujourd'hui ce qui s'est produit à cette époque-là, c'est-à-dire les obsèques de Bainville, la voiture de Blum traversant le cortège, dit-on, attaqué, dit-on aussi, par des camelots du roi de la 17e...
Et tout de suite protégé.
Et tout de suite protégé, bien sûr. Des camelots du roi de la 17e, dirigés par quelqu'un qui deviendra d'ailleurs un ami personnel de l'actuel président de la République, qui sera un des chefs de la cagoule. Cette petite molestation qui aurait provoqué une égratignure sur le visage de Blum, qu'on pense d'ailleurs attribuer à un morceau de verre, Blum étant protégé par les gens qu'on accuse de l'avoir attaqué, ce qui est assez curieux, tout ça débouche sur la dissolution des ligues, et on imagine très bien que ça pourrait se reproduire aujourd'hui de la même manière.
Avec l'histoire du 6 février.
Non, c'est bien plus tard. C'est bien plus tard. Mais ça pourrait se reproduire aujourd'hui. On a un schéma, là.
Parce que le 6 février, on peut effectivement en parler. Les gens qui sont descendus dans la rue criaient à bas les voleurs.
Ah oui.
Alors là, on peut faire justement un parallèle avec l'époque aujourd'hui. Il y avait la République qui était complètement pourrie avec divers scandales, et notamment le scandale de l'affaire Stavisky, qui rejaillissait sur bon nombre de députés et même des membres du gouvernement. C'est pour ça que les gens sont descendus dans la rue. Il n'y avait pas beaucoup d'élan idéologique. C'était, je crois, quelque chose, un élan spontané. C'est pour ça que les gens sont descendus dans la rue, parce qu'ils en avaient ras-le-bol d'avoir des gens au pouvoir qui devaient représenter leurs intérêts et qui en fait s'en mettaient plein les poches. Bon, je ne sais pas si ça a beaucoup changé. Hein.
Et c'était surtout la réaction des anciens combattants. C'est difficile
aussi, oui.
À essayer enfin, de faire revivre ça. Mais ce qu'il y a, c'est que des gens qui avaient souffert pendant 4 ans, ils avaient laissé 1,5 million de leurs camarades sur les champs de bataille, près de 2 millions de blessés graves. Des veuves, des mères qui avaient laissé les enfants, des femmes qui avaient laissé les maris. Moi, je sais que je suis né en 1919 et j'ai vécu toute mon enfance dans un monde en noir. Tout le monde était en deuil. On ne vivait que dans... Il y avait des monuments aux morts qui faisaient avec des noms et des noms et des noms. Et c'était formidable. Et 14 ans après, 15 ans après, voilà les gens qui avaient gagné une guerre atroce, une guerre terrible, qui était en train de perdre la paix, qui voyait cette paix partir par tous les bouts. Il faut penser qu'entre 1918 et 1934, il y a eu quelque chose comme 40 gouvernements en France. Et dans cette affaire Stavisky, on trouve un monsieur qui dans une escroquerie faite sur les... On va pas rentrer là, enfin dans le détail, mais faite sur un crédit municipal, a réussi à voler 250 millions de l'époque en se servant du parti au pouvoir, le parti radical socialiste, qui était à l'époque ce qu'est le parti socialiste maintenant, la franc-maçonnerie, etc. Et il a comme avocat le ministre de la Justice, monsieur Dallimier. Alors ça explose, et qui commence ça? Bon, les ligues existent, c'est vrai, mais le gros qui descend, ce sont les anciens combattants, et qui descendent à bas les voleurs, et brusquement... après des histoires, on tire, il y a 25 morts, il y a 600 blessés sur la place de la Concorde, et M. Daladier, ce qui n'a rien à voir avec M. Dalimier, Monsieur Daladier, sous les huées, s'en va, il ne dit rien, alors qu'il y a des députés anciens, aussi anciens combattants, qui l'insultent. Il y a un climat formidable là-dedans. C'est ça, le 6 février. Or, le 6 février, je pensais que ça revient très bien avec un texte comme ça d'ailleurs. C'est parce que après on rappelle un monsieur qui s'appelle Doumer qui a été un président de la République, franc-maçon aussi, mais débonnaire. On vient, il va faire un gouvernement d'union nationale pour essayer de sauver ça. Et c'est là où la droite, et c'est là où Brasillach commence à prendre conscience, avec une formation intellectuelle, maurassienne, etc., c'est vrai, mais va prendre conscience de ce qu'il y a de dérisoire, et c'est ce soir-là, je crois que c'est vrai, qui prend conscience, et qui va s'engager beaucoup plus avant, alors qu'il n'est pas sûr que, dans sa nature, il était fait pour faire de la politique, c'est pas sûr. Excusez-moi, je ne voudrais pas.
Non, mais c'est du vécu en plus. Ou peu s'en fout, vous n'y étiez pas aussi février.
Ah, non, j'avais 15 ans. Quand
15
même.
Ans, ouais.
Enfin, vous n'auriez pas prendre ma barbe comme dans le micro.
Bien. Alors, on commence à avoir des questions qui sont d'ailleurs globalement hostiles, je dirais. Par exemple, il y a une question, je ne sais pas si elle est vraiment hostile, mais elle est en tout cas ambiguë. C'est un auditeur qui nous dit Brasillach avait-il des défauts, ce qui semblerait prouver qu'on a dit qu'il n'avait que des qualités jusqu'à présent, c'est un peu vrai. Alors Anne, je voudrais bien que vous nous fassiez vous votre portrait de Brasillach comme vous l'avez rencontré à travers vos investigations pour le livre.
J'ai rencontré quelqu'un de prodigieusement intelligent, d'extrêmement intègre, avec une soif de vie, une soif d'amitié, une immense aura sur les autres. Et j'avoue que ce personnage m'a extraordinairement fasciné et m'a très impressionné.
Ça, c'est pas vraiment des défauts.
Alors les défauts, donc j'ai bien cherché, je me suis dit tout homme a des défauts, sûrement, il a dû en avoir. Non,
il n'a pas eu le temps d'en avoir.
Oui, c'est un jeu qui.
Il est mort à 35 ans.
Hein, oui, il faudrait.
Je crois qu'on peut dire en ce qui concerne l'engagement politique de Brasillach, et tout à l'heure François Brignot y faisait allusion. Moi, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, c'est quand il quitte Je suis partout, ça je le comprends très bien pourquoi il quitte Je suis partout, pour des raisons essentiellement politiques, et c'est tout à fait juste. Mais je ne comprends pas pourquoi ensuite il écrit dans un journal qui n'a pas la valeur de Je suis partout. Je ne comprends pas pourquoi il n'arrête pas totalement d'écrire des articles teintés de plus ou moins de politique ou qui sont très polémiques. Ça je ne comprends pas. À moins, et c'est la théorie que je soutiens, que son engagement politique, à partir d'un certain moment, puisqu'il s'aperçoit qu'il s'est quand même trompé, cet engagement politique devienne en quelque sorte une forme de suicide pour justement ne pas connaître la décrépitude physique et morale. Ça, c'est une théorie que je soutiens, qui est personnelle, mais c'est à mon avis la seule explication.
François, vous avez une...
Moi, je ne crois pas ça. Je pense qu'il faut voir. C'est pas un homme politique. Hein. C'est un homme qui a des engagements politiques, qui a des passions politiques. Et comme beaucoup de Maurassiens, ils veulent pas le croire quand on le leur dit. Mais il y a dans l'anti-romantisme des Maurassiens une forme de romantisme. Et il y a chez Robert, il y a ce côté-là, sa raison lui dit politiquement, la collaboration est morte du moment où nous ne croyons plus à une possible victoire de l'Allemagne. Mais mon engagement à moi, mon engagement à moi, il demeure, et j'ai découvert, moi qui suis un maurassien, moi qui étais dans un parti anti-allemand, dans un mouvement anti-allemand, anti-germanique, et qui ai découvert un charme allemand, un charme germanique, et j'ai engagé, n'oubliez jamais ça chez Brasillac, j'ai engagé des gens à se battre à l'Est. J'ai engagé des gens à se battre dans la coalition allemande. Eh bien, je ne peux pas quitter. Et à ce moment-là, ça n'est plus une position politique, c'est une position personnelle politique, mais
sentimentale quoi.
Sentimentale. D'ailleurs, c'est un grand sentimental.
Tout à fait.
Il n'aime pas beaucoup les idées. Ça revient 10 fois dans son œuvre. C'est pas un idéologue. Ce qui a été le plus curieux, c'est que sa seule formation politique est une formation maurassienne. Et son engagement, ça sera en partie contre le vieux maître qui dit « Attention, la France seulement, ne pensez qu'à la France. » Or, lui, il ira plus loin que ça. Et il ira là par une espèce de fascination. Mais je ne crois pas... j'ai lu ce que vous avez écrit là-dessus, et vous en faites un peu un personnage d'Anouilh. Un jeune homme d'Anouilh qui a peur de vieillir.
Oh ben il en parle quand même souvent.
Il en parle souvent, mais je suis pas sûr qu'il
Oui, mais l'appétit de vivre est au moins aussi grand, oui.
Je suis pas sûr qu'il aurait mal vieilli. Et il faut dire la vérité, parce que ces choses-là, c'est important. Si nous avons la langue de bois, si nous disons pas la vérité. Je l'ai vécu auprès de lui, à Fresnes, pendant tout cet automne et une partie de cet hiver 44-45. Jusqu'à sa condamnation, puisqu'il l'a descendu, et je l'ai vu encore dans sa cellule, il en parle dans une lettre d'ailleurs. Et je l'ai vu là, mais il y a plusieurs personnes dans justement ce que Anne dit très bien, cet appétit de vivre. C'est qu'en même temps, il a le sens que c'est fini, que la mort est là. Il le sait, il le sent. Et en même temps, il a envie de vivre, et comme sa vie c'est en partie la littérature et les livres, il prépare une forme de rentrée littéraire. Il classe encore dans sa cellule, il classe ses écrits, il voit ce qu'il va publier dans les mois ou dans les années à venir. Il y a là, c'est un homme de 35 ans, pensez toujours à ça, c'est un jeune homme. Parce qu'il a, mais d'ailleurs, on voit bien à travers son œuvre.
C'est un jeune homme qui est lesté de souvenirs, et ça finit par peser ces souvenirs-là. Alors, il y a autre chose. S'il prépare, comme vous dites, sa rentrée littéraire, à ce moment-là, pourquoi il ne fuit pas et pourquoi il ne part pas en Espagne ou en Suisse se mettre à l'abri?
Ça, c'est l'honneur.
Parce qu'on fait face, oui, c'est l'honneur.
Ça, c'est l'honneur. Ça. Oui. Et d'ailleurs, c'est l'honneur. Il y a deux choses. J'ai engagé des gens. Donc je ferai face, et quand il est tout seul, quand il apprend que sa sœur et sa mère et son beau-père sont arrêtés à Sens, qu'est-ce qu'il fait? Il met 3 choses dans son petit sac de boy scout, il met sur ses épaules et il va se livrer. Il sait très bien
ce qui va lui arriver.
Je crois que ce sentiment...
Personne ne l'arrête, c'est lui qui va.
Ce sentiment de responsabilité à l'égard des gens qu'il a pu mobiliser par ses articles, c'est très important. La Mazière, qui nous a expliqué à ce micro il y a 2 ans, la genèse de son engagement dans la SS, jeune journaliste français écrivant des papiers et ayant le sentiment, après le 6 juin 44, que ce qu'il avait écrit avait envoyé des jeunes types se faire tuer sur le front de l'Est, ayant le sentiment qu'il ne pouvait pas, lui, s'en tirer, et qu'il était obligé de faire comme eux, au moins, de faire comme ceux qu'il avait envoyés là-bas. Alors, je crois qu'il y a un fond il y a au moins un point commun dans ce que vous dites, vous, et dans ce que dit Pascal Louvrier. C'est-à-dire que cette espèce de comportement, entre guillemets, suicidaire, ou cette recherche volontaire de la mort, qui va être l'attitude de Brasillac dans les derniers temps, elle est liée peut-être au fait, d'une certaine manière, qu'il redoutait l'avenir, mais peut-être moins la vieillesse, sa vieillesse à lui, que la vieillesse du monde. et que, d'autre part, il avait le sentiment qu'il avait à expier, pas du tout des fautes qu'il aurait commises, mais à expier les malheurs qu'il avait pu faire vivre à d'autres par son attitude et par son écriture.
Oui, et puis ce que vous avez dit tout à l'heure, je ne sais pas s'il avait le sentiment de s'être trompé, c'est possible, jamais je n'ai entendu parler de cela, mais enfin c'est pas impossible. Mais s'il avait le sentiment de s'être trompé...
S'il a quitté Je suis partout, c'est parce qu'il voit que...
Je suis partout, c'est... je trompe, mais pas parce que lui s'est trompé.
Parce qu'il voit que ses illusions sont en train de se défaire sous le poids de la réalité.
Il dit Je suis partout parce que il n'arrive pas à imprimer à Je suis partout la voix qu'il veut lui donner.
Voilà, c'est ça, il dit Je suis
que
partout.
Que Je suis partout continue à chanter la victoire allemande alors que...
Il dit nous n'avons plus le droit d'écrire cela. Oui. C'est ça qu'il dit.
Oui, mais à ce moment-là, on ne peut plus rien écrire du tout, parce qu'on est quand même sous contrôle allemand. Il ne faut pas l'oublier. Donc, soit à ce moment-là,
ce
on écrit...
C'est ce que voulait Brasilia. Il voulait
que... Là, vous me faites un petit peu, si vous voulez, l'avocat du diable, parce que bon, on est tous tout à fait d'accord.
Les articles politiques cessent d'être des faux papiers, de fausses informations.
Puisqu'à un moment donné, il dit ne plus faire que de la littérature à Je suis partout. Bon, c'est quelque chose qui est pratiquement irréalisable. Donc, vous êtes d'accord avec moi. Donc, à ce moment-là, il faut se taire. Et c'est ce qui ne peut pas faire admettre à l'équipe de Je suis partout... Et donc, il préfère se retirer.
Mais il faut voir aussi, je crois, l'époque, le feu, la fièvre, la passion. Nous sommes sur un maelstrom, parce que moi, j'ai l'air de dire à Brasillac, du haut de mes 24 ans, voilà, vous avez bien raison de faire ça. Mais je vais m'engager beaucoup plus avant, après cela, en lui ayant fait la démonstration qu'il avait raison de se désengager. Moi, je vais m'engager beaucoup plus dans la dernière partie de l'occupation. Par conséquent, je serai je suis malvenu, mais... Parce qu'à ce moment-là, ça n'est plus de la politique. On voit la politique, ce n'est plus une carrière politique, c'est un engagement. Et il faut être avec ses copains sur la barricade.
Oui, de toute façon, la période des années 30 est une période, moi, en tant qu'historien, que je trouve extraordinaire, parce que c'est une période d'engagement et de ferveur. À côté des temps qu'on vit à l'heure actuelle, c'est vraiment le jour et la nuit.
Et puis il y a une notion qu'il faut dire aussi sur ces articles dans Révolution nationale, quand il dit aussi le soldat allemand, mon frère. On est là devant un comportement qui n'a rien à voir avec le comportement aujourd'hui, où l'ennemi c'est la sale bête à abattre. C'est le combat à la grecque, à l'ancienne, dans l'Antiquité. L'adversaire est un adversaire que l'on doit combattre, et une fois le combat terminé, s'il est mort, on lui rend les honneurs, sinon on est... on rétablit un contact. Ce n'est pas comme aujourd'hui où si on a un ennemi, il faut en plus lui mettre tous les péchés de la terre et le traiter de tous les noms d'oiseaux. Et quand Brasillac dit le soldat allemand, mon frère, je trouve que c'est une remarquable, une très belle image. Il ne s'agit pas en effet du tortionnaire dans la cave de je ne sais quelle rue de Paris ou de l'affreux directeur de camp de concentration ou d'extermination. C'est le soldat qui a été sur le terrain, comme Brasillac a été sur le terrain en tant qu'officier.
Oui, c'est-à-dire que là, en plus, vous ouvrez une brèche intéressante, c'est que le soldat allemand, c'est un adversaire avant 1939 pour Brasillac.
Bien sûr.
Et notamment Hitler, c'est-à-dire il met en garde ses compatriotes en leur disant « Mais enfin, Hitler est en train de réarmer et ça va forcément se retourner contre nous, car l'ennemi de la France pour Hitler, bon, ben, c'est sûr, c'est la France. » Et ces écrits ne sont pas entendus.
Est-ce qu'on peut lire ce texte de 1935, parce que j'en ai assez qu'on traite éternellement Brasillac d'ami des nazis,
oui,
et de l'ami hitlérien.
Il y a une remarque. La semaine dernière, nous dit un auditeur ou une auditrice, je ne sais pas bien, il a été dit sur votre antenne que Brasillac était maurassien. Or, Maurras souhaitait la victoire des Allemands. Qu'en pensez-vous? Alors là, on est au cœur de la confusion la plus totale. C'est-à-dire que... Ça, c'est le mensonge du procès. C'est le mensonge du procès Maurras. C'est le mensonge du procès de la collaboration. C'est le mensonge du procès de l'Action française. Maurras n'a jamais été partisan de la victoire de l'Allemagne. Maurras était un anti-allemand
viscéral.
Viscéral. Et en ça, d'ailleurs,
il est né dans la haine de l'Allemagne.
Il est mort dans la haine de l'Allemagne.
N'oublions pas jamais la guerre de 14. Enfin,
je suis d'une génération qui appelait son chien Bismarck. Voilà.
C'est lui qui écrit ça.
Il écrit à une amie le 20 août 1935. J'ai lu Mein Kampf. Je dois avouer, même si cela contriste les jeunes hitlériens, nos contemporains, que je trouve cette lecture singulièrement désolante. C'est un livre qu'il faut avoir lu et où il y a des choses très intéressantes du point de vue de la politique extérieure. Mais la majeure partie du livre est le récit de la découverte de la vérité raciste par le petit Hitler, les 99 centièmes, un traité de mystique raciste. J'ai rarement vu conneries plus plates et plus désolantes. C'est un grand monument de sottise, profondément ennuyeuse et surtout effroyablement primaire. Je veux bien qu'un homme d'État ne soit pas un écrivain. Les livres de Mussolini sont assez rasants, ce qui n'enlève rien à Mussolini. Et Mein Kampf n'empêche pas l'hitlérisme d'exister. Mais il faut avouer que j'ai rarement vu quelque chose d'aussi bête, d'aussi loin de toute raison. Ce qui ne vaut pas dire, hélas, que ce soit pur instinct. Oh non, c'est bardé de mots prétentieux, de fausses sciences. Je comprends que ça ait ébloui tant d'Allemands. Qu'on admire Hitler, moi je veux bien, mais qu'on présente Mein Kampf comme un livre intelligent, un anti-Marx, quelque chose qui existe, c'est trop fort. C'est très réellement le chef-d'œuvre du crétinisme excité, où Hitler apparaît comme une espèce d'instituteur enragé.
Et voilà, donc dans cette période-là...
Quand on pense qu'on a fusillé cet homme, parce qu'il était accusé d'avoir eu de la sympathie pour l'hitlérisme...
Alors on devrait, on devrait se balader avec ce papier-là dans la poche et le faire bouffer à tous ceux
qui... Je partage pas son opinion, parce que c'est quand même assez fulgurant. Non, je veux dire...
Pas déjà, je te mets encore.
Ce que je veux dire, c'est que c'est très étonnant cet article, parce que... Au fond, quand on le lit avec attention, on s'aperçoit que tout en ayant pour Mein Kampf le mépris, la détestation qu'il exprime très clairement, il sent, il le dit à un moment, il sent que c'est prophétique, que c'est un livre programme, et que si on le lisait avec plus d'attention, on serait capable de déchiffrer l'avenir. Et c'est pour ça que je dis, je suis pas tout à fait d'accord avec lui, tout en étant complètement d'accord, Mein Kampf, il y a tout dedans. Et si les gens
l'avaient lu... En 1935 encore, quand il écrit ça, il a 25 ans.
Oui, alors c'est là qu'on voit le génie, parce que écrire ça, avoir cette perception, cette vue perçante, cette capacité
de compréhension, mais enfin, il va évoluer, il va pas penser ça il va évoluer. Mais le fond de sa pensée, et je crois que d'ailleurs il finira par écrire dans ses dernières lettres, le drapeau noir et les copains. C'est une des formules que lui soufflera Poulain et qu'il emploiera. Bon, donc parce qu'il est aussi blessé, parce qu'il ne croit plus à grand chose, parce qu'il sent la mort et qu'il va même se réfugier dans la religion, il va devenir très croyant ou très proche de Dieu dans les dernières semaines en fin de sa vie, alors que je ne l'ai jamais entendu moi parler de religion pendant l'année que j'ai pu le fréquenter. Je dis pas qu'il était hostile du tout, n'en parlait
pas. Non, mais en bon méditerranéen, on laisse ça aux femmes.
C'est vrai, oui. Non, mais il n'en parlait pas beaucoup. Il y avait même un côté un petit peu.
Heureusement, je suis pas méditerranéen.
Il y avait un petit côté païen chez lui. Il y avait un côté, un goût de la, de la lumière, de la femme, de.
Démoration, encore une fois.
Oui, c'est possible même qu'il ait été plus attiré par le romantisme allemand que par Hitler, peut-être.
Je suis pas sûr non plus. Je suis pas sûr. Mais c'est un personnage complexe, parce que quand on regarde ses goûts au théâtre, par exemple, ça montre que l'homme n'était pas simple comme on a voulu le faire. Son goût des pittoresques, par exemple, c'est une chose particulière. Son goût de Claudel, c'est un admirateur de Claudel, de Giraudoux, qui est pourtant tout le côté précieux, que chez Brasillac, on a, on, Il est mort, il a été fusillé dans une tragédie, hein, dans une tragédie. Mais limiter le Brasillac à un engagement politique, c'est fou, c'est pas vrai du tout. Il a été broyé par honneur. Je crois que c'est le fond. Il a voulu être digne de ce qu'il avait écrit politiquement, qui n'était pas la chose la plus importante de lui-même. Même si c'est ça, de ça, mais
on pourrait peut-être lire cette. Qu'est-ce que vous en pensez, François Brignot, cette conversation avec Benoît Méchain sur sur son engagement. Ils sont en prison. Nous sommes le 17 janvier 45 et il rencontre Benoît Méchain. Vous acceptez, dit Benoît Méchain. A accepté.
Le 17 janvier 45.
17 janvier.
C'est donc deux jours avant le procès.
Oui. Voilà le grand mot lâché. Oui, j'accepte mon sort. Oui. Cela a été plus dur que je ne le pensais, mais je crois que j'y suis arrivé. Seulement, accepter ne suffit pas. Il faut aller plus loin, ouvrir son cœur à tous ceux qui ont suivi le même chemin, à quelque bord qu'ils appartiennent, s'identifier à eux. Pourquoi ? Parce que leur souffrance a été la même, et aussi pour une raison plus profonde et plus exaltante. Benoît Méchain, laquelle ? C'est une idée que je n'ai exprimée que sur le tard, mais mon séjour en prison et la relecture de mes articles m'ont fait comprendre que je l'ai toujours portée en moi. Voyez-vous, quelles que soient les apparences, je n'ai jamais fait ce que les gens appellent de la politique. J'ai mis mon espoir, et Dieu sait avec quelle ardeur, dans l'internationale fasciste, dont je sais aujourd'hui qu'elle n'a jamais existé, parce que j'ai cru y voir, non un mouvement politique, mais une insurrection de la jeunesse. Aujourd'hui, on dépeint le fascisme sous un jour caricatural, parce qu'on a oublié ce qu'il a été à ses origines, une flambée d'espérance. Pendant un temps, la jeunesse a vraiment cru qu'elle allait refaçonner le monde. Et puis, cet idéal a été confisqué. Confisqué par les profiteurs, les combinards, les opportunistes, par tous ceux qui se vantent de représenter le pouvoir. Mais d'autres aussi ont lutté et ont sacrifié leur vie à une espérance. Et leur espérance, elle aussi, a été confisquée. Je me sens solidaire d'eux, parce que leur aventure a été la même. Partout, dans tous les camps, la jeunesse a été trahie. La seule différence entre nous et eux est que les événements sont en train de nous l'apprendre, tandis que eux, pour la plupart, ils ne le savent pas encore.
C'est superbe.
Cet éloge à la jeunesse communiste est magnifique.
Ouais. C'est visionnaire aussi parce que à ce moment-là, les tambouilles de la cuisine résistentialiste commencent à mijoter. Ouais. Et c'est vrai que là, on sort du théâtre des opérations pour rentrer dans la coulisse, dans la machinerie, la boutique. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, parce que vous voyez, je crois vraiment ce texte est exemplaire, que si Brasillac a redouté une vieillesse, c'est pas tant la sienne que la vieillesse du monde qu'il voyait pointer à travers toute la cochonnerie.
Il y a cela aussi, effectivement. Après avoir dit cela, qu'est-ce que vous voulez vivre encore? Vous allez radoter. Non, je crois effectivement que on a fait le tour du problème et après, c'est foutu, quoi.
Alors cette conversation, elle se passe en prison, entre Benoît Méchain et Brasillac.
Qui est tirée d'un très beau livre, Les Mémoires de Benoît Méchain, c'est le deuxième tome.
Elle se passe en prison le 17 janvier 45, deux jours avant le procès. Oui. Et en fait, j'aimerais bien que vous nous parliez de ce qui se passait en prison. Parce que tout à l'heure, vous faisiez un croquis de cette prison avec les miliciens, les gens du PPF,
parce qu'à ce moment-là, les gens qui se sont engagés à l'Est, les SS, la LVF, ils ne sont pas revenus encore. Hein. C'est le premier hiver de la guerre. Le premier hiver de la guerre, Fresne est archi comble. On est 3-4 enfin par cellule.
Et il fait un froid de loup.
Un froid de loup. C'est pas chauffé, bien entendu. On nous vole beaucoup. Quand les femmes se saignent dehors pour nous envoyer des couvertures, elles sont souvent volées. Il fait très froid. Et nous sommes au troisième étage. Il va être au troisième étage jusqu'au 19. Et le 19 au soir, moi j'ai des souvenirs comme ça, ce sont des souvenirs d'odeur, de bruit. Et le 19, je sais qu'il passe, Le matin, il faut dire que sur un procès, comme le sien, l'instruction va durer 4 ou 5 fois, pas plus. Il va avoir 4 ou 5 fois le juge qui s'appelle Monsieur Raoult, je crois. Et le soir, je suis là. Alors on éteint les lumières à 7h30. Je suis dans la nuit, debout contre la porte au 3e étage, et j'écoute. Quand il y a une condamnation à mort, on le sait parce que on met les chaînes avant qu'il revient plus. Celui qui a été condamné à mort ne revient plus dans sa cellule. On va venir prendre ses affaires et on entend les chaînes qui sont des chaînes de 7 kilos qu'on met aux pieds, aux chevilles, et on les entend qui frottent en bas sur le ciment. Parce qu'après, le condamné prendra une ficelle qui soulèvera ses chaînes et il les mettra autour de sa taille, donc elles ne traîneront plus. Mais au début, le premier soir, on l'entend. Et pour moi, pour Brasillach, je sais, il est 7h30, 8h30, on n'entend rien. Et je me dis, j'ai un espoir fou au cœur, il a été condamné à perpète, mais il n'a pas lâché. Et puis brusquement, vers 8h30, 9h moins le quart, on entend le tâtement qui monte jusqu'au 3e étage dans l'espèce de silence minéral de la prison le soir, comme ça, c'est assez extraordinaire. Et le 6 février, ça sera la même chose. 6 février, j'entendrai les chaînes, parce que c'est la même chose. Là aussi, c'est le silence qui annonce l'exécution. Et le viandox du matin est servi vers 7h30 dans des chariots qui roulent sur des rails dans les étages. Et quand il y a exécution, c'est retardé. L'exécution a lieu les préparatifs commencent à 7h. Et donc on sait qu'il va y avoir quelqu'un qui va être fusillé. Quand il n'y a pas de bruit dans la prison, parce que le matin il y a du bruit, les gardiens passent avec leurs clés et ils font souvent glisser leurs clés sur les barreaux des rambardes qui séparent, parce que les étages, s'il y a une espèce de promenoir, et puis au milieu il y a un immense trou qui va jusque là, et puis il y a une sorte de rambarde. Et quand on n'entend pas ce bruit des clés, c'est qu'il se passe quelque chose. Et le 6 février, je suis là, je me dis, s'il passe ça, il a une chance quand même. Or, le silence devient profond, et on entend à un moment donné des bruits de chaînes, là aussi. On lui enlève ces chaînes-là, alors. Donc il y a un petit tintement, et puis des bruits de voix qui montent. C'est toute l'équipe des juges, des flics qui vont le chercher, etc. Et puis un murmure qui commence à grossir, qui passe d'une cellule à l'autre et qui monte. C'est Brasillach, c'est Robert, on l'appelle Robert, c'est Robert. Là aussi, l'âge compte beaucoup, 35 ans, c'est un grand écrivain, c'est un grand journaliste, il a été directeur de journal, mais il a 35 ans, il fait partie des jeunes, il fait partie de l'équipe. Alors, ça commence à grossir, et il crie, mais moi je n'entends pas, où je suis, j'entends pas. Je crois qu'il crie à Dieu Combel, à Dieu Béraud, je sais pas, c'est rapporté après, mais ça, je ne l'entends pas. Mais ce que j'entends, c'est la rumeur qui monte de cette première division de Fresnes, et puis ça se termine, assassin, 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 puis il s'en va. Voilà, c'est ce que je dis.
La mort en face, 6 février 1945. Si j'en avais eu le loisir, j'aurais écrit sans doute le récit des journées que j'ai vécues dans la cellule des condamnés à mort de Fresnes, sous ce titre. On dit que la mort ni le soleil ne se regardent en face. J'ai essayé pourtant. Je n'ai rien d'un stoïcien, et c'est dur de s'arracher à ce qu'on aime. Mais j'ai essayé pourtant de ne pas laisser à ceux qui me voyaient ou pensaient à moi une image indigne. Les journées, les dernières surtout, ont été riches et pleines. Je n'avais plus beaucoup d'illusions, surtout depuis le jour où j'ai appris le rejet de mon pourvoi en cassation, rejet pourtant prévu. J'ai achevé le petit travail sur Chénier que j'avais commencé, j'ai encore écrit quelques poèmes. Une de mes nuits a été mauvaise, et le matin j'attendais. Mais les autres nuits, ensuite, j'ai dormi bien calmement. Les trois derniers soirs, j'ai relu le récit de la Passion chaque soir, dans chacun des quatre évangiles. Je priais beaucoup, et c'est la prière, je le sais, qui me donnait un sommeil calme. Le matin, l'aumônier venait m'apporter la communion. Je pensais avec douceur à tous ceux que j'aimais, à tous ceux que j'avais rencontrés dans ma vie. Je pensais avec peine à leur peine. Mais j'essayais le plus possible d'accepter.
Ça, c'est le, c'est la mort en face, c'est le tout dernier texte.
Ah, c'est le tout dernier poème de Lefrène, oui. Faut peut-être revenir sur une chose que dont parlait François tout à l'heure, c'est la foi profonde qui se dégage de ce. Les impératifs d'horaire nous ont peut-être empêchés d'entendre les autres poèmes de Fresne, mais ce n'est pas une foi de circonstance, de pacotille. Mmh. Elle remonte beaucoup plus loin. Elle est quand on entend les premiers poèmes, on sent déjà que la foi revient. Enfin, si elle l'a jamais quitté.
L'a jamais quitté, mmh. Mais il n'en parlait pas. C'est pas grave. Voilà.
Et ce n'est pas du tout une foi de dernière conversion d'avant la mort.
Tu n'as pas Lazare.
Si.
On va l'écouter.
Parce que justement Lazare est vraiment le poème qui est typique de cette foi profonde, qui révèle cette foi profonde.
On va l'écouter pour terminer, pas tout de suite. François, une dernière question. Est-ce que vous croyez que Brasillach a laissé quelque chose qui soit utilisable par aujourd'hui? J'allais dire par les jeunes, mais pas seulement par les jeunes, par tout le monde aujourd'hui, en dehors de son œuvre qui peut être lue, mais est-ce qu'il a laissé une espèce de présence, un message?
Je crois qu'il vaudrait mieux demander ça à des gens qui sont un peu plus jeunes que moi. Mais je crois, oui, que la mort de Brasillach a éclairé son œuvre et a donné une force, a permis de découvrir, je crois, ce qu'il y avait de très fort. Parce que je pense que pour les jeunes gens et les jeunes filles, l'engagement politique ne correspond peut-être pas à la pensée profonde de ce qu'il a écrit. Ça ne coïncide pas, en tout cas, toujours. Mais le fait qu'il a été un homme debout, un homme noble, un homme responsable, un homme qui a été jusqu'au sacrifice le plus haut. Et je voudrais dire là aussi une chose, c'est que quand on le connaissait un peu, c'était pas ce qu'il y avait de plus frappant en lui. C'était un jeune homme encore qui semblait tendre, amusé, rieur, enfin facétieux et plein d'attention pour les autres. On n'aurait jamais pu penser qu'il ait eu ce courage indomptable, parce qu'il faut un courage indomptable pour rester pendant 15 jours dans une cellule, savoir la veille qu'on va être fusillé le lendemain et ne pas flancher. Or, il a été jusqu'au bout d'une hauteur, d'une...
Et soutenir les autres. Parce qu'en fait, c'est lui qui soutenait ceux qui venaient le voir.
Et je crois que quand on lit... On ne peut pas lire, même ces romans les moins engagés, ces romans sont pas engagés d'ailleurs, mais même n'importe, c'est pas les quatre jeudis, parce que c'est un grand critique, Brasillach. C'est un romancier, on peut discuter sur son roman, mais c'est un... c'est un grand critique. Il a écrit des pièces de théâtre. Enfin, Bérénice, ça, c'est des bonnes choses. C'est un poète. C'est tout ça. On ne peut pas lire du Brasillac sans qu'il y ait, qu'on le veuille ou non, qu'on soit hostile ou non à son personnage, à cette fin, à 35 ans, dans son petit manteau de ratine bleue, ce foulard rouge autour du cou, ce visage d'intellectuel, il va, il a un petit flanche, il se reprend, et puis il va au poteau, et écrit Vive la France, et il tombe sous des balles françaises, fils d'un officier français, tué à la guerre. C'est prodigieux.
Anne.
Moi, je trouve qu'il laisse un message de grande force, de grande intransigeance, de voir la réalité en face, de ne pas se leurrer, de fidélité, de fidélité, d'avidité intellectuelle, de curiosité intellectuelle extraordinaire. Il voulait faire une histoire de la littérature depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours. Une immensité dans l'intelligence, dans la recherche, dans le goût de savoir dans tous les domaines. Un comportement d'une ouverture qui est un merveilleux exemple et qui demeure. Enfin, je crois que je peux le constater quand on voit ça quand on le voit sur des jeunes de 20 ans aujourd'hui. Il a un impact, en dehors de toute position politique, en dehors de tout engagement.
Il faut croire que la République n'a vraiment pas besoin de savants, quel que soit le domaine d'application.
Oui, tout à fait.
Pascal Louvrier, qu'est-ce qui vous reste, vous ? Qu'est-ce qui vous a apporté, Brasillac ?
Moi, je crois que c'est avant tout sur le plan littéraire. Moi, je l'ai rencontré, entre guillemets, sur le plan littéraire. L'engagement politique, qui est plutôt, à mon avis, un engagement patriotique, en fait, c'est accessoire. Et je crois que ce qu'il restera de Brasillac, une fois le temps écoulé... une fois que son œuvre sera passée par le tamis de l'histoire, je crois qu'il restera quelques livres tout à fait merveilleux, et c'est un écrivain qui va rebondir, qui va rejaillir dans quelques années, peut-être dans quelques décennies, mais son œuvre a le temps.
Deux livres vont être publiés.
Oui.
L'un en livre de poche, Notre avant-guerre, au livre de poche, et l'autre, Les poèmes de Fresnes à la table ronde.
Alors on va écouter, comme promis, Lazare, pour terminer cette émission trop brève sur Brasillac, parce qu'on aurait pu en parler encore bien plus longtemps. On aurait pu écouter François Bonnion en parler indéfiniment, je dirais.
Lazare, tout... Quand vous voulez, Seigneur, est possible. Le verrou se tire au seuil du cachot, le fusil s'abaisse au bord de la cible. Les morts qu'on pleurait sortent du tombeau. Devant le tombeau, vous pleuriez aussi, devant le tombeau où dormait Lazare. Au jour de ce monde, il fut votre ami. Vous avez brisé ses sombres amarres. Compagnon de Dieu, Lazare, mon frère, viendrez-vous demain, viendrez-vous ce soir? Ô vous, né deux fois aux joies de la terre, patron à jamais des derniers espoirs. Près du monument se tient invisible la petite fille aux yeux de matin. Tout quand vous voulez, Seigneur, est possible, l'enfant espérance a joint les deux mains. Je remets, Seigneur, au pli de sa robe la peine des miens, l'étreinte du cœur. Que l'enfant me rende à l'heure de l'aube, le jour de la terre, ou sinon, d'ailleurs. Le testament d'un condamné.
Voilà, c'était Lazare de Brasillac, dit par Pierre Fresnay. Je voulais enchaîner sur de la musique, et puis très franchement, Il n'y a pas beaucoup de musique qui peut passer derrière ça en direct. C'est un petit peu difficile. Alors, de même que quand Mozart est fini, c'est encore de la musique qu'on entend. Mais on dira la même chose avec ce poème de Brasillac. Merci François Brignot. Merci Pascal Louvrier. Merci Anne Brassier d'être venue nous parler de celui qui a été votre ami charnel pour François et votre ami à travers le temps et la pensée pour Anne et Pascal. Alors je rappelle que vous êtes tous les deux auteurs de livres consacrés à Brasillac. J'aimerais que vous m'en donniez les titres et les éditeurs, puisque c'est la tradition dans cette émission. Il y a un autre livre consacré à Brasillac, qui est le livre de Jean Madiran, paru aux Nouvelles Éditions Latines. Anne.
Encore un instant de bonheur, Robert Brasillac, aux éditions Lafon.
C'est un joli titre, en tout cas.
Brasillac, l'illusion fasciste, chez Perrin.
Et François n'a rien écrit sur Brasillac, n'a pas écrit de livre sur Brasillac. Est-ce que moi, un jour...
J'ai écrit quelques pages dans...
Quelques pages de ça.
Dans un livre.
Enfin, dans mes souvenirs. Mais ça m'a tellement collé. Et c'est tellement profond que même ça ne fait que quelques années. Je crois que la première fois que j'ai parlé de Brasillac, c'est en compagnie d'Anne.
Oui, dans une petite salle,
réunion,
oui.
Intime. Parce que je n'arrivais pas à parler.
Merci d'avoir.
L'émotion étant un petit peu étouffée par la vieillesse, je peux en parler.
Elle est encore très présente, mais merci d'avoir accepté de nous en parler ce soir. Et puis, on va terminer selon la tradition de cette émission. Oui, est-ce que vous avez des choses à nous dire, ma bonne Victoria?
Non, c'est une annonce, une cérémonie au cimetière de Charonne à 11h pour Robert Brasillac, justement samedi, avec. Beaucoup de, enfin, le cercle franco-hispanique, Monsieur Bardèche, Pétain-Verdun, beaucoup d'organisations nationalistes.
Alors également beaucoup d'appels d'auditeurs qui nous disent, un auditeur qui dit, né en 18, j'étais à la journée de février, félicitations à François Brignot, bravo à Monsieur Brignot, une auditrice dont le père a été gazé pendant la guerre de 14, une auditrice qui est si émue qu'elle pleure, elle était place de la Concorde en février 34. On a un autre auditeur qui nous dit, moi j'étais aussi à la Concorde en 34.
Une auditrice
qui nous dit, et j'ai 90 ans aujourd'hui et je me souviens de tout ce qui s'est passé, bien sûr. On nous demande s'il est prévu une réédition des œuvres complètes de Brasillac. Elle a été faite par le Club de l'Honnêtum il y a une quinzaine d'années.
Introuvable et très très cher.
Il y a une association.
Je peux vous dire qu'il y a quelqu'un en tout cas qui l'a trouvé, c'est celui qui a fait mon déménagement. Parce que
il y a une association à Lausanne, des amis de Robert Brasillac, qui publie un bulletin, et à chaque fois que les œuvres complètes de Brasillac sont libres, sont en vente, elle le donne. Alors, le numéro de la boîte postale,
il faudra le
écrivez-nous à Radio Courtoisie, voilà. Écrivez-moi à Anne Brassier.
Anne Brassier, vous lui demandez à
la
Je
vous envoie immédiatement le numéro de la boîte postale.
Je crois que les romans, enfin les principaux romans, sont toujours disponibles dans des collections de poche, hein, je crois. Il faut déjà les lire, hein, même si on ne peut pas trouver tout, il faut déjà lire ça, c'est déjà merveilleux.
Il faut lire Notre avant-guerre, je crois, parce que ça rend bien justement le ton de l'époque, et ça c'est vraiment exceptionnel de pouvoir connaître le ton d'une époque. Puis il y a le charme de Brasillac qui joue à plein dans ce livre merveilleux.
Et puis alors il y a beaucoup de questions que je n'ai pas appelées, si j'ose dire, parce que elles sont un petit peu en dehors du sujet, notamment des questions sur Maurras et la divine surprise, sur des choses comme ça, qui ont un contact avec le sujet, mais qui, ce sujet ce soir, c'était Robert Brasillac. Merci encore à tous d'avoir passé la soirée avec nous. On va écouter, donc conformément à la tradition, Bruno Maigret avant de nous quitter.
À lire les journaux, à écouter les médias, les problèmes des Français auraient disparu, ou du moins seraient maintenant tous suspendus à l'issue de la guerre du Golfe. Quoi de plus faux ? La crise du Moyen-Orient ne change rien aux graves problèmes qui taraudent notre pays. Voulez-vous un exemple ? Le déficit de la sécurité sociale, le revoilà. Il est annoncé pour 91 à hauteur de 15 milliards de francs, deux fois plus important que l'année dernière, et particulièrement scandaleux, car ne l'oublions pas, les socialistes viennent de créer un nouvel impôt, la CSG, qui devait, nous avait-on dit, permettre de financer la sécurité sociale. On voit là la duplicité du discours socialiste. Le sacrifice demandé n'a donc servi à rien. Hier, on avait le déficit. Aujourd'hui, on a le déficit doublé, plus l'impôt de nouveau. Et tout cela, parce que les socialistes n'ont pas le courage de prendre les mesures structurelles nécessaires pour sauver la sécurité sociale. Nous, nous savons que pour assurer l'avenir de la protection sociale des Français, il faut mettre un terme au gaspillage qui sévit au sein de la sécurité sociale, décentraliser, établir la concurrence et créer une caisse spéciale pour étrangers. Aujourd'hui, les immigrés reçoivent 50 milliards de plus qu'ils ne versent. C'est-à-dire que le déficit, en réalité, c'est eux et même bien au-delà. Aujourd'hui, les Français payent donc pour la sécurité sociale des immigrés. Eh bien, demain, avec une caisse immigrée, ce serait à eux de combler leur propre déficit. Encore faudrait-il, pour que de telles mesures soient prises, que la France se dote d'un gouvernement qui ait le courage d'affronter les problèmes et qui ne cherche pas, dans une guerre lointaine, le dérivatif à ses propres insuffisances.
Merci Bruno Maigret. Je vous rappelle le voyage d'un groupe de jeunes en Lituanie. Ces jeunes veulent emporter aux Lituaniens des vitamines, du café, du chocolat, du savon et si possible, une ou parmi tous les miracles sont possibles, des photocopieuses.
Ou une Renéo.
Ou une Renéo. Donc si vous avez la possibilité de les aider, vous téléphonez au 47 41 07 86. Sinon, demain matin, vous appelez Minute, vous demandez Françoise Varlet. Et elle vous donnera toutes les informations souhaitables pour pouvoir réaliser ce, donner ce coup de main à nos frères lituaniens. Merci de votre présence fidèle au poste. À la semaine prochaine, que Dieu vous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Beketch assisté de Victoria. Émission du 6 février 1991, rediffusée dimanche 6 septembre 2015 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Yeah.